Mon directeur, c'est Didier Moreau, vous prie de l'excuser parce qu'il est en déplacement aujourd'hui. Moi, je voulais dire à quel point nous sommes honorés, vraiment, que cette journée d'études soit organisée chez nous. Je trouve que c'est un partenariat maintenant, grâce aussi à Raphaël qui est là et qui a eu le réflexe de nous appeler. Un partenariat qui devient naturel avec l'Université de Poitiers et toutes ses composantes. Et ça permet aussi de connaître d'autres personnes. Et je suis très contente de la transdisciplinarité, terme que j'aime pas beaucoup, ou interdisciplinarité, terme que je n'aime pas non plus, parce que ces journées se justifient complètement et en fait, ces thématiques ont tout à fait lieu d'être ici. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Nous sommes à votre disposition pour tout ce qui est de sujets pratiques, etc. Donc, je suis désolée, il n'y a pas de fenêtre dans la salle, mais il y a quand même un petit peu d'air. Donc, si vous avez chaud, on a des bouteilles d'eau à votre disposition. Donc voilà, merci infiniment. En tout cas, on s'est régalé hier avec la conférence de Rose en Vallon. Nous allons continuer aujourd'hui et merci à tous pendant 2 jours. Ça va être une belle fête à Poitiers. Merci à vous.
Et merci de votre accueil. Alors, effectivement, nous n'avons pas de fenêtre, mais hier, Pierre Rose en Vallon nous disait que nous avions une fenêtre d'opportunité qui était liée aux configurations historiques, économiques et politiques actuellement. Donc, vous sentez à quel point la question est vive aujourd'hui. Il faut vraiment s'interroger sur la question de l'inégalité, les formes sociales, de la réorganisation de la solidarité, de tout ce qui peut contribuer à réduire l'injustice dans une société, dans des sociétés telles que les nôtres. Pas de fenêtre donc, mais celle-là au moins, c'est pas la moins importante. Par ailleurs, vous disiez trans, interdisciplinarité, et là je pense qu'on ne s'est pas consulté avec Raphaël, mais on est sans doute d'accord pour dire qu'on est plutôt pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on aime bien que les littéraires ressemblent à des littéraires, des historiens à des historiens, des économistes à des économistes, des philosophes éventuellement à des philosophes, même si parfois ils ne ressemblent à rien, et puis surtout cette idée que c'est par la confrontation de points de vue très constitués, avec des méthodes spécifiques, des corpus particuliers, des manières de les aborder, qu'on peut provoquer des points de rencontre et parfois des points de non-rencontre. Par exemple, hier, on voit bien qu'il y a des moments où les choses se croisent et puis d'autres moments où ce qui est intéressant, c'est justement de voir pourquoi on ne voit pas, on ne dit pas les choses de la même manière. Et donc, c'est plutôt ce type de point de contact qu'on recherche avec ce colloque, qui est vraiment un espace de travail qui est tout simplement lié au sentiment que nous sommes parvenus à une forme d'épuisement des discours habituels sur la question de l'inégalité, qui a besoin de ressourcer un petit peu tous nos vocabulaires, toutes nos grammaires, toutes nos syntaxes, de repenser certains termes, d'analyser, de questionner, de problématiser les raisons pour lesquelles on va être appelé à parler d'une certaine manière de quelque chose qui nous frappe comme ne devant pas être. Parce que finalement, ce qui est intéressant dans cette notion d'injustice, c'est qu'elle semble parfois même court-circuiter tout discours, c'est-à-dire qu'on a l'expérience ou la perception de quelque chose qui nous dérange, et c'est ensuite qu'on va essayer de la construire comme quelque chose de plus inacceptable, en ce sens que ça relèverait d'un discours plus global, avec des causes, avec des intentions, des choses contre lesquelles il faudrait lutter. Donc cette idée, épuisement, elle me paraît assez importante. Avec Raphaël, on en a souvent parlé, c'est l'idée au fond que depuis une trentaine d'années, puisque c'était aussi la période de temps pour le plus contemporain sur laquelle s'est attardé hier Pierre-Rose en Vallon, on a pu assister à différentes scansions du discours sur l'injustice sociale, qu'il a été d'abord question dans les années 80, dans les années 90, d'une pensée de l'injustice qui passait plutôt par un discours sur la justification des différences. C'est ce que Pierre-Rose en Vallon disait quand il évoquait la notion d'équité. Le fait que cette notion philosophique très ancienne ait pu être réappropriée dans le débat, notamment dans le sillage d'une œuvre qui à ce moment-là commençait d'être discutée en France, qui est celle de Pierre Rawls. Pourquoi pas, hein. À un moment, on disait bien Jean Locke. Donc cette idée que ce qui était important pour essayer de penser la justice des écarts, finalement, à l'échelle de la société, portait plutôt sur la manière de produire les différences. Et que ce qui était important, c'était de réfléchir au type d'inégalités dont on pouvait dire qu'elles étaient justes, quand bien même elles marquaient des écarts importants et parfois très importants entre les conditions. Ensuite, on a eu, et Nicolas Duvoux est très pointu sur cette question, on a eu un discours qui s'est concentré sur la question des personnes assistées, sur la question des personnes en situation d'exclusion, et la question était alors de voir comment on pouvait les réintégrer à la société. En même temps, ce discours a une très longue histoire, puisqu'on sait que dès la fin du XVIIIe siècle, en fait, au moment où les révolutionnaires travaillent sur la question de l'émancipation politique, sur la question de l'affirmation de l'égalité, on a tout de suite vu émerger des comités de réflexion sur la paupérisation, sur le problème du paupérisme, au sens où il apparaissait improbable de demander à des gens de s'affirmer comme des agents politiques, des citoyens, alors que par ailleurs, tous les moyens de la subsistance leur étaient déniés. Donc, très tôt, la question a été celle-ci, c'est-à-dire comment faire, et ça c'est des termes qu'utilisait Tocqueville par exemple, comment faire pour, à un moment où toute la société va de l'avant, toute la société bouge, il n'y en est pas certain qui reste en dehors du grand mouvement de la société. Comme si d'un seul coup tout partait dans une direction qui est plutôt une direction positive, celui de l'amélioration des conditions d'existence, eh bien on avait un groupe de population, de la population qui lui restait en place, qui ne suivait pas ce mouvement. Et cette idée-là, finalement, elle est restée très très importante et on l'a sentie très active dans les années 70-80, à un moment où on observait une crise de l'État-providence. C'est-à-dire qu'à un moment où il y en a une réduction des ressources à redistribuer, mais réduction dont on voit bien qu'elle est aussi organisée, puisqu'on a vu tout ce qui était en jeu, finalement, autour de la réduction du taux marginal d'imposition. C'était aussi la réduction des ressources publiques à redistribuer. Donc à un moment où on a une réduction des ressources à redistribuer, la question qui s'est imposée, c'était la question du ciblage. Il fallait bien utiliser l'argent public et donc concentrer les moyens sur ceux qui en avaient le plus besoin. Et là, on n'a plus un discours global sur les écarts à l'échelle de la société, mais on a des discours plus fragmentés sur des segments de la population. Et ce que disait Pierre Rosanvallon hier sur les séparatismes peut se comprendre aussi comme l'externalité négative ou les effets pervers d'une pensée qui se voulait généreuse en un sens, puisqu'il s'agissait de concentrer des ressources sur les plus nécessiteux. Donc, discours fragmenté au sens où fragmenté par l'objet auquel il s'adresse. Les plus pauvres, les victimes de discrimination, c'est encore un thème très très important aujourd'hui. Et puis, un discours plus général, qui était celui de l'égalité des chances, qui avait pour vocation à réguler l'ensemble des modes de répartition des ressources et des niveaux de reconnaissance dans la société, qui lui posait les problèmes sur lesquels Pierre Rosanvallon est venu hier. Mais discours aussi fragmenté, Raphaël, dans sa question hier soir, l'a très bien souligné, c'est discours fragmenté par les niveaux de langue dans lesquels chacun se retrouve, à travers lesquels chacun s'exprime. Donc comment faire, puisque c'était le thème d'hier, très fortement marqué en tous les cas dans la perspective de Pierre Rosanvallon, de recréer du commun, et on pourrait se demander si créer du commun, c'est une fin en soi, ou si le commun ne devrait pas être considéré que comme la résultante d'une justice des rapports sociaux, c'est-à-dire qu'on n'a pas à vouloir le commun sera là si les gens ne se sentent pas agressés, violentés par des rapports sociaux qui les humilient, qui les privent, qui les anéantissent, etc. Donc toute cette question-là me paraît extrêmement importante, extrêmement compliquée, d'où la nécessité sans doute de rechercher, comme je le disais en commençant, à travers cette exigence de pluridisciplinarité dont tout le monde me disait déjà qu'elle était très très marquée tout au long de ce colloque, puisqu'elle associe des artistes, elle associe des gens d'horizons disciplinaires très différents. Il y a encore la table ici en illustration avec Louis, dont je ne sais pas trop comment on pourrait le caractériser, journaliste, ça c'est certain, puisqu'il l'a été, directeur de l'Observatoire des inégalités, et avec lequel j'ai eu le plaisir de créer cette belle institution, puisque je n'hésite pas à l'appeler comme ça maintenant. Et puis, spécialiste qui prenait en charge les questions de société pour le magazine Alternative Économique, et qui maintenant travaille aussi avec Compastis, une société spécialisée dans la production de données territorialisées de l'inégalité. Un sociologue, en la personne de Nicolas Duvoux, un sociologue un peu particulier quand même, j'insiste sur ce point, très philosophique à 16 heures, qui travaille sur la question de la solidarité, qui a travaillé sur la question des assistés et de leur autonomie à travers les dispositifs de politique publique de prise en charge. Et puis Anne-Laure Bonvalot, qui est doctorante en littérature espagnole, plus particulièrement. Et c'est cette recherche, et qui travaille, qui va nous présenter quelque chose autour de l'esthétique de l'inacceptable dans le roman espagnol contemporain. Et c'est autour de cette rencontre-là qu'on essaye en fait de voir comment nous abordons le problème, c'est-à-dire pas forcément comment nous produisons des solutions, mais comment, à partir des horizons disciplinaires qui sont les nôtres, on arrive à essayer de trouver des nouveaux modes de figuration de ce qui pourrait être la forme vive de l'expérience de l'injustice aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qui relève de la domination? Est-ce que c'est quelque chose qui relève de la violence? Est-ce que c'est quelque chose qui relève de l'exploitation? Le thème a été important dans les années 50, 60, 70. Est-ce que c'est quelque chose qui relève de l'hétéronomie? Quel est le vocable qui me permet de dire l'injustice? Quel est le mot qui désigne la victime aujourd'hui de l'injustice? C'est un peu le type de quête qui est la nôtre, et puis on verra ce que ça produit, avec l'idée de produire derrière un livre. Alors aujourd'hui, on recherche des formes plutôt rapides, hein, c'est-à-dire c'est l'exercice un peu cruel auquel on a soumis nos invités, c'est-à-dire une intervention liminaire de 15 minutes, pas davantage, pour qu'ensuite on puisse avoir un vrai espace de discussion, à la fois entre eux et puis ensuite avec vous. Voilà. Voilà le programme des festivités. Il est 9h passé, nous sommes en retard et on va pas le rattraper à mon avis, mais en tous les cas, on va essayer de pas le creuser. Je propose de commencer avec Anne-Laure Bonvalot, qui est doctorante donc à Montpellier et qui travaille sur le roman contemporain espagnol.
Merci. Donc ma communication a pour titre « Esthétique de l'inacceptable dans le roman espagnol contemporain, des écritures du juste milieu au réalisme des possibles ». Donc, ce qu'on peut dire en introduction, c'est que dans le roman espagnol actuel, après une période de reflux de la dimension éthique ou politique du texte, la représentation textuelle de l'inégalité semble redevenir aujourd'hui une priorité. Certains romanciers vont s'employer en effet, au moyen d'innovations esthétiques diverses, à chercher chez le lecteur le sentiment de l'inacceptable face à l'actuelle banalisation des inégalités et de leur violence intrinsèque. Pour ces auteurs, les représentations médiatiques et artistiques jouent un rôle décisif dans ce qu'ils appellent une uniformisation de la perception de l'évidence. Et pour eux, une bonne partie du roman espagnol actuel contribue en effet à naturaliser, en quelque sorte, dans une prose volontiers romantique et acritique, on peut dire, les inégalités, quelles qu'elles soient. En effet, donc, ces fictions qui mobilisent diverses traditions littéraires comme le naturalisme ou ce qu'on appelle aussi le costumbrismo, qui est une version un peu marquée au niveau pittoresque du naturalisme, ces fictions, donc, on peut dire dominantes, hein, normalisent l'intolérable, notamment par un pouvoir de redoublement, de confirmation de l'existant qu'elles déploient. Pour Belén Gopegui, qui est une des deux auteurs dont je vais traiter ici, de tels romans entérinent la représentation de ce qu'elle appelle un monde à demi, c'est-à-dire un monde dont les notions de conflit, de commun, de collectif et de politique, par suite, auraient magiquement disparu. Ainsi, donc, selon de nombreux auteurs, le roman espagnol serait dominé donc par ce qu'on peut appeler un réalisme humaniste, un réalisme conservateur au sens strict, et confiné donc dans une fonction de reproduction de l'inégalité, une reproduction qui, lorsqu'elle fait advenir de l'injuste, l'appréhende sur le seul mode, on peut dire, de la complaisance de l'émotion. On a en effet dans ces fictions une romantisation, une individualisation de l'histoire, mais également une folklorisation des exclus, ainsi qu'un fixisme et un essentialisme assez marqués. Et dans ces fictions également, on peut dire qu'un sentimentalisme diffus est très marqué, et c'est bien souvent ce sentimentalisme est bien souvent le masque d'un certain relativisme axiologique, dont je vais tenter dans cette communication d'analyser les enjeux politiques dans l'Espagne actuelle. Donc on a ainsi affaire à ce qu'on pourrait appeler une esthétique romanesque du juste milieu qui tend à occulter le caractère conflictuel du réel et dans laquelle l'inégalité, lorsqu'elle apparaît, elle se donne tendanciellement comme un motif réaliste, un décor haut en couleur, hein, sous les couleurs du pittoresque, ou alors comme le ressort d'un pathos larmoyant. Donc face à cette tendance, certains écrivains, ils sont minoritaires, mais leur voix prend de plus en plus de place, hein, entendent replacer la notion d'injustice au cœur de la représentation du réel, notamment par un renouvellement des objets et des procédés de l'écriture engagée dont j'exposerai les traits principaux dans la deuxième partie de ma communication. Donc, ma première partie s'intitule « La fiction malade du consensus », c'est une interrogation, hein, « Les écritures du juste milieu ». Donc on peut dire que depuis les années 2000, l'Espagne connaît un véritable boom de ce que de nombreux universitaires s'accordent à appeler des fictions nostalgiques. Ces œuvres portent en général sur le récent passé de l'Espagne, c'est-à-dire la guerre d'Espagne et le franquisme en priorité, un passé qui se retrouve généralement mythifié, fétichisé, au sein d'un régime de représentation qui se veut et se présente pourtant comme réaliste. Un des problèmes de ces fictions est qu'elles se présentent dans une continuité ou une identité mensongère avec le réel, et elles font advenir le passé un peu sous la forme d'un simulacre, hein, dont le propre serait d'effacer donc toute limite tangible entre réalité et fiction. les vaincus dans ces fictions, donc en l'occurrence il s'agit des vaincus de la guerre d'Espagne, les vaincus apparaissent dans ces fictions tendanciellement, donc c'est quand même une tendance, hein, sous les traits du héros, du martyr ou de la victime romantique, figure dont le succès aujourd'hui est peut-être le corollaire d'un présent désenchanté en mal de grands récits. Ces fictions, donc volontiers réconciliatrices et complaisantes, configurent ce que d'aucuns appellent un nouveau consensus narratif, donc caractérisé par une tonalité largement mélodramatique, ainsi que par un phénomène de sentimentalisation systématique, on pourrait dire, de l'existence. Donc, en effet, comme je disais tout à l'heure, bien que ces romans se présentent souvent comme des œuvres réalistes ou historiques, les personnages y ont des préoccupations majoritairement sentimentales, plutôt que sociales, économiques ou politiques en tout cas. Ce procès sentimentalisant va aboutir à terme à un mouvement d'évacuation de la dimension conflictuelle et collective de la réalité historique. Et ce mouvement-là produit finalement une adaptation des valeurs et des codes du langage de l'antifranquisme, de la lutte, de la résistance, finalement aux valeurs de la classe moyenne espagnole actuelle. C'est ce qu'on voit avec cette tendance au sentimentalisme assez marquée. Il est rarement question ainsi dans ces fictions de mettre au jour une axiologie du passé sur laquelle le lecteur serait invité à réfléchir. Il s'agit plutôt toujours de produire une espèce de personnalisation tragique des procès historiques et de l'histoire récente du pays dans le cadre donc d'un réalisme mélodramatique qui joue à la fois de la manipulation pathémique mais aussi de la dramatisation à outrance de la matière documentaire pour provoquer toutes sortes d'identifications. Voilà. Donc en tant que mélodrame, ces fictions qu'on pourrait appeler lacrymogènes sont des formes fictionnelles qui ouvrent et referment le passé dans le sens toujours d'un dépassement qui en propose narrativement la clôture. Ce qui est très présent, c'est le modèle de l'épopée individuelle et la personnalisation à outrance, comme je l'ai dit, des processus historiques. Ces procédés font du passé conflictuel de l'Espagne un décor, un capital pittoresque, à même de fournir, je cite Isaac Rosa, qui est le deuxième écrivain dont je vais parler ici, des contextes tragiques pour histoire personnelle. Donc c'est comme ça qu'est utilisé ce passé. L'autre auteur, donc Belén Gopegui, qui tente, elle, de réfléchir sur les modalités du juste et de l'injuste dans l'ordre du récit de fiction, caractérise les travers de cette écriture de la réconciliation ainsi, je cite, « Elle parle d'une mode narrative qui consiste à recréer des épisodes de la guerre civile au travers de ce qui est une forte préférence pour le romantisme et pour le relativisme dans son acception la plus mercantile. » À savoir, on additionne des torts de tous les côtés, donc on parle des deux côtés en présence dans la guerre civile, hein, on les mélange, on les divise et on prétend annuler les uns avec les autres. Fin de citation. Donc on voit qu'on a ici une bien curieuse acception de l'égalité dans ce relativisme qui est assez dominant. Un des problèmes récurrents que signalent en effet les deux auteurs, c'est la coupure axiologique que la représentation mélodramatique de ce qu'on pourrait appeler les dominés hein, opère entre le passé et le présent, mais aussi entre l'individu et le commun ou le collectif. En effet, on peut dire que les figures du perdant romantique ou de la victime mythifiée permettent de récupérer a posteriori les discours de l'altérité politique, les discours antifranquistes notamment, et de les intégrer au travers de représentations qu'on pourrait appeler empathiques, hein, aux valeurs démocratiques, plutôt que de débattre des potentialités politiques et axiologiques d'un régime qui justement mettait l'égalité au centre de ses préoccupations, qui était la Seconde République, donc qui a été renversée par le coup d'État franquiste. Donc on peut dire que ces récits, par ces diverses opérations, entérinent une nouvelle version du discours fondateur de la transition à la démocratie, le discours de la réconciliation nationale, ce qu'on a appelé à l'époque. Ils sont en ce sens, ces textes fictionnels, une relecture consensuelle du passé au prisme de ce qu'on pourrait appeler l'idéologie postmoderne. Je cite une fois de plus Belén Gopegui qui expose son refus catégorique d'héroïser les victimes de l'injustice historique qu'est la défaite des républiques face aux dictatures fascistes. Je cite « Il n'y a pas de légende, il n'y a pas de mythe, il n'y a pas de roulement de tambour chez le disparu chilien ou argentin, ni chez le milicien espagnol, car la seule chose qu'il peut y avoir en eux, c'est du présent ». Donc pour ces deux auteurs, la seule possibilité pour ce qu'ils appellent la littérature responsable, celle qui cherche à explorer le réel donc et non à s'en évader, c'est de ne pas céder à une écriture mythifiante des vaincus ou des dominés quels qu'ils soient. Ces auteurs récusent ce qu'on pourrait appeler une écriture à bande-son, où donc les portraits pittoresques d'époque, des dominés, les drames déchirants, ne sont finalement que la basse continue un peu des émotions factices et produisent en tout cas un effet de sourdine qui empêche précisément la présence d'une voix commune, hein, la communalité dont parlait hier Pierre Rosanvallon, est connectée au présent. Pour Belengo-Begui, en effet, l'idéologie de la fin de l'histoire a à ce point contaminé la fiction dans le roman actuel que les mécanismes capables de conférer de la puissance au personnage du vaincu sont inexistants. Donc j'avais une citation, mais je vais vous en faire grâce pour ne pas dépasser le temps. Comment ça se manifeste dans leur fiction, ce point de vue critique? Dans ses romans, Belengo-Begui, elle évite délibérément ce qu'elle appelle une mode mémorielle et elle cherche d'autres voies, comme je vais le dire en deuxième partie, pour faire advenir la justice poétique. En revanche, Isaac Rosa, lui, fait de la dénonciation des représentations consensuelles du passé et des conséquences de ces représentations, hein, le cœur de ses deux premières œuvres. C'est un écrivain jeune, hein, qui doit avoir même pas une quarantaine d'années. La première, c'est La mémoire vaine, parue en 2004 en Espagne. La deuxième, encore un fichu roman sur la guerre d'Espagne en 2007. Donc, dans ces deux romans, de la déconstruction et de la parodie, hein, incessante du genre mémoriel, ce qui se trame, en fait, c'est un dialogue critique avec les canons de ce genre, ce qu'on peut appeler un genre mémoriel, hein, que ce soit avec les écritures fictionnelles ou avec les écritures historiographiques. Rosa, en effet, se livre à une véritable casuistique des représentations narratives du franquisme et de la guerre d'Espagne, période donc, comme je l'ai dit, dont la récente surexploitation mercantile a des effets largement déshistoricisants et dépolitisants. Donc, pour conclure ma première partie, je voudrais dire que l'hypertrophie dans ces 10 dernières années d'une littérature du souvenir et une littérature mémorielle n'est pas allée nécessairement de pair avec une volonté de faire naître le sentiment de l'indignation face à ce qui est considéré pourtant dans ces romans comme une injustice historique, c'est-à-dire la défaite de la légitimité politique de la Seconde République renversée par le coup d'État franquiste et les 40 ans de dictature qui s'en sont ensuivis. Donc lorsque dans ces fictions un parti pris en faveur des vaincus existe, ce qui est très souvent le cas d'ailleurs, hein, il est toujours de l'ordre d'un pathos humaniste qui va enfermer finalement les vaincus dans un temps passé dont il est certes possible maintenant de se souvenir, ce qui n'a pas toujours été le cas, hein, il y a eu une période de relatif silence, hein, dans les années 90, mais ce passé est toujours à terme récupéré par et dans ce qu'on pourrait appeler le consensus démocratique. Donc face à ces récits qu'on pourrait appeler des récits ambidextres, hein, qui utilisent donc des arguments conciliateurs pour réduire à l'anecdotique ce qui fut en réalité une répression systématique, on peut voir, maintenant c'est l'objet de ma deuxième partie, quelle stratégie textuelle les deux auteurs que j'ai cités tentent de mettre en œuvre, pour produire dans leur fiction ce sentiment de l'inacceptable qui selon eux fait défaut. Donc c'est l'objet de ma deuxième partie, produire l'expérience de l'injuste, stratégie. Je vais ici évoquer assez rapidement deux romans qui me semblent emblématiques de ce qui pourrait être une écriture du conflit et de l'antinostalgie, une écriture qui prétend donc par les mécanismes fictionnels qu'elle met en place mieux revenir au réel. La première, c'est Le père de Blanche-Neige, un roman qui est traduit en français, hein, de Belengo-Begui, paru en 2007. La deuxième, El país del miedo, le pays de la peur, écrit en 2008, qui n'a pas encore de traduction française, mais apparemment ça ne saurait tarder. Donc, dans ces deux romans, les auteurs, comme je le disais, mettent en œuvre diverses stratégies pour faire ressentir au lecteur, produire en tout cas l'expérience de l'injuste, faire ressentir au lecteur l'importance d'assumer ses responsabilités politiques et citoyennes. C'est vraiment le fondement de leur projet esthétique, ce qui est assez particulier. On peut parler véritablement chez ces auteurs de littérature politique, dans la mesure où ce que les textes visent à ébranler, c'est la tolérance infinie à l'insupportable. Je suis en train de citer ici le philosophe Alain Brossa, dont l'autre nom est l'extinction de la politique. Prenant le contre-pied des fictions nostalgiques que j'ai évoquées tout à l'heure, ces romans entendent produire deux choses, ce sont leurs priorités, hein, de l'aveu des auteurs, du présent et du commun. Différentes stratégies. D'abord, un hybridisme un peu générique et discursif. On a, en l'occurrence, dans ces romans, un mélange étroit entre fiction et essai. Cet hybridisme n'a pas une fonction ludique, mais il permet de présenter les inégalités et les injustices subies davantage comme des phénomènes sociaux, des mécanismes structurels, que comme de simples données individuelles, comme c'était le cas dans les fictions nostalgiques que j'ai évoquées tout à l'heure. Le roman d'Isaac Rosa, comme celui de Belengo-Begui, raconte l'échec, finalement, du storytelling de la classe moyenne dans ses prétentions à la neutralité, au désengagement. C'est un peu, en fait, ces romans, l'histoire de la faillite, de la prétention à vivre une humanité séparée. Je fais référence à la conférence d'hier soir. La classe moyenne, en tant que telle, en tant que classe, est la véritable protagoniste des deux œuvres, ce qui est complètement novateur, là, pour le coup, il me semble, dans le roman. Ainsi qu'en témoigne, par exemple, le titre de l'œuvre de Gopegui, Le père de Blanche-Neige, qui établit donc une espèce d'équivalence métaphorique entre la passivité coupable du père de Blanche-Neige, hein, qui est absent dans le conte, bien qu'il, finalement, avalise un peu les machinations de la marâtre, et donc passivité coupable en parallèle avec celle de la classe moyenne. pour questionner en effet la responsabilité de la classe moyenne dans la consolidation d'un système inégalitaire et les raisons qui l'ont conduite à se replier sur ce que ses auteurs appellent une existence dépolitisée. Ces fictions proposent au lecteur de faire, un peu dans sa chair, l'expérience de l'impossible retrait ou de l'impossible désengagement. On a notamment le motif de la bulle qui va saturer les deux textes, qui sont structurés en ce qu'on pourrait appeler un réseau de bulles non communicantes. La bulle donc de confort dans laquelle ces personnages tentent de se murer exclut par définition toute rencontre avec l'altérité véritable, et l'écriture va explorer les conséquences de la fiction dominante, hein, qu'elle soit journalistique, historiographique, enfin dans toutes les acceptions du terme, sur la construction d'un imaginaire ressenti comme défensif, caractérisé en tout cas comme ça, ayant pour corollaire le repli dans une existence immunitaire, pourrait-on dire. Le roman d'Isaac Rosin est ainsi conçu comme un catalogue de topiques terrifiants qui assaillent le citoyen dépolitisé. Une obsession sécuritaire qui indique notamment l'échec de cette société sans conflit que ce protagoniste là, de la classe moyenne qu'on a dans ce roman tente à tout prix d'édifier, qu'il fantasme en tout cas abondamment dans le texte. Le personnage de Carlos, donc dans ce livre Le pays de la peur, qui est le protagoniste, est emblématique de ce qu'on pourrait appeler un syndrome défensif. Aux prises avec des angoisses de toutes sortes, il se tient un peu dans une posture de déploration défensive à laquelle le récit, qui est majoritairement en focalisation interne, va nous donner un accès privilégié. Le personnage est par exemple navré de tomber dans des clichés qu'il reconnaît comme tels, il a une certaine distance à soi, mais il ne parvient pourtant jamais à se défaire de ces clichés, encore une fois je saute la citation. Mais malgré donc cette distance à soi, qui permet d'ailleurs à l'auteur d'instiller des commentaires critiques, notamment à propos de la mainmise sur l'imaginaire opérée par les médias ou par la fiction, c'est la peur qui l'emporte. Et quel est l'objet dans ce roman de cette peur ? C'est l'autre, mais quel autre notamment ? Le pauvre ou l'immigré des pays du Sud, c'est comme ça qu'il est désigné dans ses romans. Et la présence de cet autre est nécessairement vécue par ces personnages de classe moyenne sur le mode de l'intrusion ou de la gêne. Et cette perception de l'autre comme venant troubler le confort paisible d'un quotidien ouaté n'est pas l'apanage dans ces romans d'un personnage isolé, mais on voit bien par différents procédés qu'il s'agit vraiment d'une vision de classe. Il y a notamment la pratique de l'accumulation sur des pages et des pages avec la généralisation de l'article défini. On a également un emploi fréquent d'un pronom « nous » qui est finalement le nous des possédants, le nous des propriétaires, dans lequel Carlos va dissoudre toujours ses propres responsabilités. Ce nous auquel d'ailleurs le lecteur effectif va bien souvent s'identifier et bien malgré lui. Donc on a un dispositif polyphonique, on en parlait hier, avec l'italique, l'enchevêtrement des voix, le discours indirect libre. On voit à quel point Carlos a intériorisé les discours médiatiques qu'il considère avec distance, mais qui sont absolument intériorisés. Il a une certaine conscience, donc ce Carlos, des enjeux idéologiques inhérents au procès de construction de la peur dans les représentations médiatiques ou fictionnelles. Et l'inventaire de ces peurs va l'amener notamment à réfléchir sur les raisons qui président à la dépolitisation, à la défense générale de l'immobilisme ou de la stigmatisation des dominés par une grande partie de la classe moyenne. Chez Carlos, l'imagination, et cette imagination est toujours évoquée comme induite, comme le produit d'un construit social, cette imagination supplée presque systématiquement à la connaissance directe. Et quand ce Carlos a la possibilité d'avoir des informations directes, il préfère systématiquement se retirer dans cet imaginaire défensif dont je parlais tout à l'heure, dans ce que Isaac Rosa appelle une imagination à la Dickens. On a en effet dans le roman donc des pages et des pages d'accumulation de différents topics qui sont censés représenter les dominés et que Carlos a intériorisé. Je vais encore une fois vous passer la citation, mais c'est un procédé qui est extrêmement drôle. Et dans lequel le lecteur finalement est obligé de s'identifier, puisqu'il y a tellement de peur que forcément à un moment donné vous allez vous identifier à cette position inconfortable. Et ces perceptions apparaissent dans leur caractère donc exagéré et distordu, d'autant plus qu'elles sont rapportées au quotidien des victimes de l'inégalité, un quotidien qui lui est exposé par Rosa sans costumbrismo, sans mélodramatisme aucun. Le personnage de l'adolescent, il y a un adolescent dans le roman qui extorque le fils de Carlos, est notamment désigné par celui-ci comme l'enfant, le garçon, donc avec vraiment une sobriété. La femme de ménage de Carlos, qu'il va licencier à tort, pensant qu'elle subtilise des objets, est évoquée également de façon très succincte, je cite, « Elle est très jeune, marocaine, elle s'appelle Naïma, on ne sait rien de plus à son sujet ». De même, dans Le Père de Blanche-Neige, on a le personnage d'un livreur qui, lui aussi, se fait injustement licencier suite à une réclamation de la mère de famille, qui est la protagoniste de l'œuvre, qui s'appelle Manuela. Le personnage de ce livreur est longtemps désigné simplement par son origine. Il apparaît comme l'équatorien. Puis s'en suivra ensuite une prise de conscience et il sera reconsidéré, le portrait de ce personnage changera. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on a affaire ici à des portraits plutôt succincts et obliques des dominés, qui ne sont pas là pour provoquer l'apitoiement du lecteur, comme c'était le cas dans le mélodrame que j'ai cité auparavant, mais qui viennent davantage remettre en question, un peu en creux, les agissements et les préjugés des personnages de classe moyenne, dont ils sont directement ou indirectement les victimes. Rosa emploie également une stratégie qu'on pourrait qualifier de déceptive, pour que le lecteur fasse justement l'expérience du caractère abusif de ses peurs sécuritaires. Contrairement à ce qui se passait dans le mélodrame, on a des moments souvent dans ce livre, des moments d'attente anxieuse, qui sont souvent suivis d'une chute des plus banales, comme lorsque Carlos suit l'adolescent qui extorque son fils dans un quartier populaire de Madrid. Je cite rapidement, « Quant aux gens, ils sont quelque peu différents de ses voisins, mais pas trop non plus. Et il faudrait s'arrêter à des détails pour deviner leur extraction sociale et leur situation économique. Il y a en revanche plus d'étrangers, plus de noirs, plus d'arabes, mais tous se montrent tranquilles et travailleurs. Ils déchargent des camions, nettoient des vitrines, ils ont l'air bien élevés, ils font un pas de côté pour le laisser passer quand ils le voient marcher, et ils se montrent indifférents à sa présence. » Fin de citation. Donc on voit que cette description banale est un peu déçue de la part de Carlos. Du quotidien d'un quartier populaire tranche véritablement avec les récits alarmistes que Carlos n'a de cesse de consulter sur Internet et qui lui tiennent lieu de sources d'informations quasi exclusives. Je pourrais dire à cet égard qu'il y a des pages entières du roman qui proviennent directement du site du ministère de l'Intérieur espagnol, les consignes de sécurité, des choses comme ça, dont le lien du ministère apparaît clairement dans le texte. Et cette citation de lien est aussi un procédé qu'utilise Belén-Gopegui. Donc la revendication de justice menée par les deux personnages d'immigrés, donc le livreur et la femme de ménage, qui clament leur innocence dans ces deux romans, cette revendication va connaître des issues diverses selon les deux œuvres. L'injustice subie par Naïma, donc licenciée à tort, comme je le disais, n'éveillera chez Carlos aucune sorte de remords, tout absorbé qu'est ce personnage dans l'édification de défense qui vont le conduire à terme à être le complice, voire le commanditaire indirect d'un meurtre sur mineur. Donc ça va très loin dans le roman. En revanche, dans le roman de Gopegui, la prise de conscience de la mère de famille va la conduire à s'identifier au dominé et elle va vivre ce qu'on pourrait appeler une expérience de déclassement volontaire, mais là, je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus. En tout cas, ce que les deux romans rendent manifeste, c'est le racisme culturel et la tolérance au sens étymologique du vocable qui sous-tendent la perception d'une classe pourtant, par ailleurs, consciente de ses contradictions. Je m'appuie ici sur les travaux de Zizek. On voit dans ses romans que l'exercice de la tolérance conduit à la naturalisation d'une distance, une distance à l'autre, qui se manifeste en tant que droit naturel de la société capitaliste avancée. C'est le centre de ses romans, le droit à ne pas être harcelé, qui est un mode de vivre la présence de l'autre et du dominé. Donc dans ces romans, les personnages de dominé apparaissent davantage comme des ombres. Ils se tiennent dans ce qu'on pourrait appeler une sorte d'invisibilité visible, ces romans les rendent visibles justement, et ils sont les figures fantomatiques d'une différence qui est perçue avec crainte, en tant qu'elle est potentiellement problématique, mais qu'on va tolérer bien sûr au nom de la rationalité instrumentale. Donc ces portraits de dominés font ainsi ressortir en creux le caractère proprement intenable des positions des protagonistes emblématiques de la classe moyenne. Et je conclue très rapidement pour vous dire que contre des écritures sentimentales et consensuelles qui naturalisent l'injuste et qui en appellent à l'émotion, comme je le disais tout à l'heure, ce qui se dresse avec Gopegui et Rosa, c'est peut-être un réalisme plus intellectuel et critique qui fait donc toujours de la déconstruction des habitudes de perception un de ses pivots et de la possibilité d'une autre réalité, plus juste, peut-être plus égalitaire, un de ses principes esthétiques fondamentaux. C'est vraiment une position minoritaire dans le champ espagnol actuel. Les deux romans prétendent en effet faire advenir une manière de justice poétique, mais toujours en tentant d'agir sur la perception de l'évidence pour, je cite Belén-Gopegui, rendre visible le visible et faire que le lecteur retrouve ce sentiment d'injustice qu'il a peut-être perdu, comme je le disais tout à l'heure. Il ne s'agit pas de faire triompher la justice dans le récit par la mise en place de simples mécanismes compensatoires. Ce qui est en jeu, c'est plutôt la matérialisation de situations productrices d'inégalités, dont le lecteur, comme je le disais, identifié bien souvent au personnage ambigu de la classe moyenne, fera l'expérience inconfortable et déconcertante. Cette expérience de l'intenable, de l'impossible désimplication, on pourrait dire, ainsi que la présence d'un conséquentialisme, en tout cas une forte attention portée aux conséquences dans ces deux textes, indique que les auteurs ne tentent pas seulement d'agir, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la connaissance des inégalités, mais plutôt il s'agit de retrouver par la fiction le sentiment enfoui de l'indignation. C'est ce qu'il se propose de faire. La question de la responsabilité de la fiction est ainsi au cœur de ses poétiques, hein, et de ce qu'on pourrait appeler, comme je le disais dans mon titre, un réalisme des possibles. Face à la fiction cinématographique, télévisuelle, etc., et aux habitudes de perception qu'elle induit, une banalisation de la violence, une stigmatisation des dominés, ces auteurs tentent de renouveler les formes et les objets de l'écriture engagée. Et cette reconfiguration des objets de l'écriture engagée vise, de leur aveu, à une décolonisation, à une réappropriation de l'imaginaire politique, un mouvement dans lequel l'égalité serait à nouveau perçue, peut-être, comme la première des évidences. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour cette première incursion dans un corpus que personnellement je connais pas, mais qui donne envie de ça donne envie de le découvrir et qui est tout à fait prometteur aussi par rapport à la suite de nos discussions, parce qu'il s'intègre précisément dans le type de réseau de questions qu'on avait déjà pu commencer d'ébaucher hier à partir de l'intervention de Pierre Rosanvallon, et qui nous propose donc de réfléchir à travers ce corpus très contemporain à des figures contemporaines de l'injustice. Et alors que moi, tout à l'heure, je présentais plutôt l'idée de partir de l'expérience de l'injustice, premier déplacement tout à fait important, tout à fait intéressant, on voit que l'expérience de l'injustice dans cette fiction est aussi quelque chose qu'il s'agit de reconquérir d'une certaine manière, que le problème c'est pas tellement de partir d'un sentiment d'injustice, mais de savoir redécouvrir en fait ce qu'elle est. Alors on pourrait peut-être le problématiser en se disant que même ceux qui n'éprouvent pas les situations que vous évoquez comme des situations injustes ne manquent pas de considérer que d'autres situations en revanche sont injustes. Donc la question est peut-être pas toujours de se dire là je ne vois pas d'injustice alors qu'il faudrait que j'en voie. La question est plutôt: qu'est-ce que vous désignez comme situation injuste ? Il y a des conflits aussi à ce niveau-là, ça va être intéressant de l'évoquer. En tous les cas, juste très très rapidement, avant de donner la parole à Nicolas, ce que je relève déjà de points de convergence, au moins thématiques et intellectuelles, c'est cette idée qu'il s'agit de sortir des clichés. D'une certaine manière, pour les gens de la classe moyenne, c'est une difficulté tout à fait importante. C'est-à-dire en même temps sortir des habitudes linguistiques quasiment ou langagières qui font que, parce qu'on aurait nommé quelque chose, on aurait d'une certaine manière résolu le problème. Donc percevoir déjà la dimension de cliché dans cette dimension-là, c'est peut-être aussi, par exemple, une expérience analogue à celle qui pourrait être la nôtre, que de dire, par exemple, on a un exclu, et donc il y a tout un dispositif, un appareillage autour de cette figure-là de l'exclu qui permet de résoudre le problème à bon compte. Est-ce que le simple fait de nommer, parce qu'il est en même temps cet acte de dénomination, un levier institutionnel pour des politiques publiques plus ou moins efficaces, mais en tous les cas, Nicolas nous en dira quelque chose, c'est la question qu'on peut se poser, mais en tous les cas, est-ce que le fait de dénommer est déjà parfois pour nous quelque chose qui s'apparente à une figure du cliché ? Sortir des contradictions, ça renvoie un petit peu à ce que Pierre Rosanvallon nous disait hier quand il parlait du paradoxe de Bossuet, le fait d'assentir à quelque chose de général, mais qui correspond en fait à quelque chose que sur le plan particulier, on tolère très très bien parce qu'on s'en accommode dans notre vie, pour nos enfants, pour des proches, etc. Et puis par ailleurs, se défier du mélodramatisme, de la complaisance, ça renvoie, il me semble, du point de vue plus général, à ce qu'on a pu appeler le tournant humanitariste de la question sociale, d'une certaine manière. L'idée que finalement, on est plutôt sur des logiques caritatives, il s'agit d'aider, se faire du sentiment, etc., plutôt que d'avoir une appréhension politique des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Donc on retrouve là des choses très très importantes qui traversent les différentes disciplines et les discussions qu'on peut avoir à partir d'elles. Et puis on retrouve ce thème, là c'est les deux points sur lesquels je terminerai très très rapidement avant d'enchaîner. La question du... Alors vous avez utilisé les deux termes et je trouve que c'est intéressant. Mode mémoriel, genre mémoriel. Mode, on sent qu'il y a une connotation un petit peu plus critique déjà que dans le genre mémoriel. Et on voit très très bien que la question mémorielle a pu servir à produire du consensus et à dépasser les figures du consensus, en même temps que d'autres réinvestissaient ce thème-là pour faire surgir la conflictualité au cœur même des consensus mémoriels, mais en même temps, peut-être pour mettre à l'écart ou moins, ou décentrer, par exemple, les questions sociales. Mm-hmm. Parce qu'autour de la question mémoriale, c'est la question de l'histoire, c'est la question de l'identité collective, de l'identité nationale qui est en jeu, avec les conflits que ça implique. Et qu'en même temps, poser cette question a été souvent une manière de ne pas poser d'autres questions qui sont plus transversales parfois, qui sont les questions sociales. Et puis on voyait que dans cette perspective-là, le mouvement s'accompagnait d'une tendance à l'individualisation dans la littérature mémorielle. C'était ce que vous avez appelé l'épopée individuelle. Mm-hmm. Et ça correspond assez bien à des partis pris méthodologiques des sciences sociales qui ont considéré à partir des années 80, peut-être, si je ne m'abuse, que finalement le bon vecteur de la réflexion sur les questions sociales, c'était la question de l'individualisme, alors qu'il y avait peut-être d'autres options possibles. Et autour de la question de l'autonomie, précisément, se trouve posée dans toute sa complexité les tensions qui traversent cette notion, c'est-à-dire qu'elle n'est pas que négative, elle n'est pas non plus que positive. Et le travail de Nicolas est très très important dans cette perspective-là, et il l'exprime. Alors Nicolas, je le présente un petit peu plus objectivement, parce que là c'était que de l'effusion sentimentale. C'est un maître de conférence en sociologie, je l'ai indiqué, il est à Paris 5, il est rattaché au CERLIS toujours, je crois.
Toujours.
Et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec Serge Pogam, c'est là qu'il a commencé à faire son travail, après avoir débuté une thèse avec Pierre Rosanvallon. Il a terminé avec Serge Pogam en sociologie, travaillé sur la précarité, travaillé sur l'exclusion, travaillé sur les dispositifs, le RMI, etc. Il y en a eu un certain nombre, le RSA ensuite. Il y a toute une histoire à faire ici. Et son dernier livre, je vous le recommande tout particulièrement, c'est « Le nouvel âge de la solidarité », qui a été publié dans la collection de Pierre Rosanvallon, « La République des idées ». Merci Nicolas d'être là.
Merci à toi. Merci pour votre invitation. Alors, il me semble que l'idée de se poser comme objectif de dresser un panorama élargi des inégalités répond à la fois à une exigence intellectuelle et évidente, mais aussi à un défi politique. Et c'est sur ces deux points que je voudrais avancer un certain nombre de pistes. Alors, peut-être pas en proposant un savoir figé ou le type de propos que les praticiens des sciences sociales, que je suis ordinairement, construit, c'est-à-dire un discours reposant sur enquête, élaboration d'un échantillon, d'un corpus précis et capacité à objectiver, mais plutôt de faire lever un certain nombre de réflexions à partir de formulations très contemporaines et parfois difficiles à penser comme telles de l'injustice. Alors d'abord, le cadre du propos que je vais tenir, c'est bien une réflexion sur les politiques d'assistance, donc des politiques d'intervention de lutte contre la pauvreté, politique ciblée. Patrick, tu as évoqué ce grand mouvement vers le ciblage de la protection sociale qui a commencé dans les années 70 et qui se poursuit aujourd'hui avec tout un ensemble de résistances. Je ne vais pas faire d'allusions politiques, enfin, je vais essayer de ne pas trop en faire. Vous avez vu pendant la campagne électorale la proposition de réorienter l'aide qu'on connaît sous le nom de caution familiale, a fait l'objet effectivement d'un débat assez intéressant pour tester la légitimité même du ciblage de l'intervention publique. Mais simplement, les politiques ciblées existent en France depuis les années 70-80. Les plus connues sont le revenu minimum d'insertion, on pourrait citer, qui a été remplacé par le revenu de solidarité active, on pourrait citer la couverture maladie universelle. Et je parlais de défis politiques parce qu'effectivement, ces dispositifs nécessaires qui viennent en aide aux personnes démunies, privées de ressources à la fois du travail et de la protection sociale dans une société comme la nôtre où la protection sociale repose sur le travail. C'est bien l'esprit de la sécurité sociale. Donc ces politiques sont sans doute nécessaires. Elles répondent à des principes de justice et à l'idée de dette de la collectivité envers ses membres les plus démunis. Mais ce sont des politiques extrêmement ambivalentes du point de vue de leurs effets de long terme. Et alors, je ne citerai pas le paradoxe de Bossuet, mais les chercheurs qui travaillent sur des comparaisons internationales ont élaboré un autre paradoxe, qui est le paradoxe de la redistribution. C'est les chercheurs Walter Korpi et Joachim Palm, donc des chercheurs scandinaves, et c'est pas anodin qu'ils le soient, ont montré que plus une société ciblait ses protections vers la pauvreté, vers la lutte directe contre la pauvreté, plus on s'adresse aux démunis directement et moins on est en capacité de résoudre les problèmes que l'on affronte et moins on est en capacité du coup de remplir les missions que l'on se donne. Et juste un point historique qui permet, et Louis Morin, j'espère, ne me contredira pas, la pauvreté a baissé, si on prend l'espace d'une génération depuis les années 70 jusqu'au milieu des années 2000, où la pauvreté s'est stabilisée avant de recommencer à augmenter légèrement. Je vois qu'il opine du chef, donc je suis rassuré. La pauvreté a été divisée par deux en France, mais elle a été divisée par deux grâce aux institutions générale de la sécurité sociale, c'est-à-dire des politiques qui n'étaient pas ciblées sur la pauvreté. C'est-à-dire, le développement des politiques ciblées accompagne la stabilisation, voire l'augmentation de la pauvreté, plus qu'elle ne la corrige. Si elle corrige quelque chose, c'est l'intensité de la pauvreté, c'est-à-dire l'écart entre le revenu médian des personnes pauvres, vous me dites quand ça devient... le revenu médian des personnes pauvres, l'écart entre ce revenu et le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, c'est 19%. 50% des pauvres gagnent moins de 19% que le seuil de pauvreté. Enfin, gagnent moins que, du coup, 81% du seuil de pauvreté. Voilà. Donc, il y a des effets structurels, il y a des effets de construction des sociétés qui sont extrêmement problématiques. Donc, alors, je vais essayer proposer trois idées. La première, c'est de faire un très bref... Là, j'imagine que... J'ai été devancé, d'abord j'ai été devancé par Patrick tout à l'heure et sans doute par Pierre-Rosan Vallon hier, donc je n'aurais pas le ridicule de me placer sur le même terrain. Donc d'essayer de retracer les quelques scansions dans les dénominations de l'injustice qui se sont succédées depuis une trentaine d'années, avant d'aborder un point qui me semble extrêmement important aujourd'hui et qui est l'idée... de ressentiment. Alors, c'est pour ne pas faire mentir Patrick, hein, j'utilise une catégorie philosophique que Nietzsche et puis Scheller ont utilisé et ont construit dans la modernité, l'idée de ressentiment qui est une figure de l'injustice telle qu'elle est vécue, exprimée, mais non pas par les exclus, par les plus démunis, mais par les strates des classes populaires qui se trouvent juste au-dessus de ces populations qui sont précisément les cibles de l'action publique que j'évoquais. Donc c'est une figure de l'injustice qui est extrêmement intéressante, extrêmement problématique et qui a l'avantage de prendre à rebrousse-poil les esprits progressistes qu'un certain nombre d'entre nous sommes, puisque c'est une vision de l'injustice qui s'adresse aux privilèges que les exclus auraient du fait de la redistribution dont ils bénéficient. Et donc, ça, je voudrais insister sur la genèse et les effets de ce ressentiment populaire avant de éventuellement envisager des perspectives de reconstitution d'un horizon commun. Donc, je commence. Le premier point est d'essayer de comprendre comment une vision de l'injustice structurée autour des inégalités de classe sociale qui a prévalu dans les années 70, c'est à peu près de ce moment-là qu'on date le tournant, comment cette perception des inégalités s'est substituée à cette perception des inégalités, s'est substituée d'autres formes de représentation, et j'indiquerai deux termes simplement, la vulnérabilité et l'exclusion dans un premier temps, et aujourd'hui la discrimination. Je vais essayer de faire le lien entre ces trois termes. Donc, Il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte pour comprendre l'érosion progressive de cette représentation de la société autour d'inégalités entre classes ou catégories socio-professionnelles, selon le vocabulaire qu'on choisit, ce qui ne dit rien, évidemment, de l'érosion des inégalités réelles. C'est la perception, la représentation par la société de l'injustice qui s'est décalée de cette vision des inégalités. Alors, la première chose, c'est évidemment l'émergence dans les années 70 et 80 de ce qu'on a appelé, Pierre-Rosan Vallon, entre autres, la nouvelle question sociale. C'est-à-dire une question sociale qui n'est plus le conflit entre le capital et le travail, mais la question des exclus, de ceux qui sont désaffiliés, de ceux qui sont disqualifiés, selon votre chapelle universitaire. Bref, de ceux qui sont hors du marché du travail et qui sont dans une situation d'isolement social, qui sont dans des situations d'exclusion qui ne sont pas simplement rapportables à un phénomène d'exploitation ou un phénomène d'inégalité sur le marché du travail. Évidemment, c'est lié au développement du chômage de masse. Le terme d'exclusion a été la catégorie autour de laquelle la société s'est rassemblée pour lutter contre ces phénomènes. Et on a eu une approche largement compassionnelle hein, de ces situations, la structuration d'un réseau associatif, son soutien, et les réponses politiques sont les dispositifs ciblés que j'ai évoqués tout à l'heure, le RMI, la CMU. Mais le deuxième point qui me semble important de souligner, c'est qu'en même temps qu'on avait ce phénomène, dont je ne nie pas l'importance, mais ce phénomène qui concernait une partie quand même restreinte de la population dans une société. Donc je rappelle, c'est toujours bon d'avoir des proportions en tête, que plus de 75% des actifs aujourd'hui sont employés sous le régime du CDI en France en 2011. Hein, donc avant de considérer qu'il y a une paupérisation généralisée, il faut rappeler ces proportions. On a une partie de la population qui est concernée, mais cette nouvelle question sociale est allée de pair avec une transformation beaucoup plus générale de notre société, qui fait que depuis la même période, le milieu des années 70, on a assisté à un changement de régime de production et au fond à un changement d'organisation générale de notre société. Alors évidemment, je ne peux vous faire l'insulte de vous faire un cours de sociologie générale sur ces quelques transformations. J'en citerai quand même quelques-unes. La démocratisation scolaire et culturelle est un phénomène très important parce que, pour le dire vite, elle a changé la perception des inégalités, d'une inégalité d'accès, une inégalité de destin qui était structurée autour de l'accès différencié entre les classes sociales aux études longues. On est passé à un régime d'égalité, de concurrence sur une base individuelle où, au fond, c'est l'incapacité des individus à circuler et à s'orienter vers les filières les plus pertinentes qui est devenue le moteur de la création des inégalités. Donc on trouve des inégalités entre catégories sociales qui restent très fortes, mais qui se sont fortement recomposées autour d'un différentiel des capacités d'individus à rentabiliser, entre guillemets, leur parcours scolaire. La démocratisation scolaire et culturelle, Pierre Merle parle de démocratisation ségrégative hein, pour bien rendre compte de cette recomposition des inégalités dans la démocratisation. On pourrait évoquer la tertiarisation de nombreux emplois qui ont évidemment pour effet, là aussi, de substituer à une organisation structurée autour de groupes, groupes défendus par des syndicats, eh bien, une concurrence entre salariés égaux et avec donc toutes les difficultés qu'il y a pour eux à faire valoir l'existence même de collectifs au sein desquels auxquels ils appartiendraient. Et je ne vais donc pas m'étendre sur, mais simplement tout un ensemble de transformations ont eu pour un effet d'individualiser profondément le rapport à la différence sociale. Et l'inégalité, au lieu d'être formulée en termes de rapport entre groupes, a été formulée en termes d'inégalité de destin entre individus. Alors, encore une fois, bon, vous allez dire que c'est ma seule référence, mais je vous rassure, non, Pierre-Rosan Vallon et Fitoussi parlaient d'inégalités intracatégorielles hein, dans le nouvel âge des inégalités, précisément pour pointer ces différences qui traversent les catégories sociales considérées auparavant comme homogènes. Et évidemment, cette individualisation dont j'ai essayé de vous donner les soubassements sociaux profonds, eh ben, cette individualisation, elle a battu en brèche l'idée même d'injustice au profit de la responsabilité individuelle de chacun dans, finalement, sa capacité à obtenir des ressources et des positions dans la société. Bon. Alors, du coup, dans ce panorama ou dans cette vision d'une concurrence inter-individuelle, eh bien, évidemment, c'est la notion de discrimination qui est venu reconfigurer le désavantage. Au fond, la discrimination est aujourd'hui le vocable par lequel la différence qui excède l'individu vient être nommée. On parle de discrimination en raison du genre et on met des instruments, par exemple la parité pour corriger, la discrimination en fonction du handicap, en fonction du quartier d'habitat, en fonction du groupe ethnique, si on s'autorise ce vocabulaire. Et on parle même aujourd'hui, alors c'est le grand paradoxe de la dénomination, l'association, le mouvement ATD Quart-Monde a plaidé pour l'adoption d'une notion de discrimination en raison de la pauvreté. C'est-à-dire qu'on va chercher à étendre le vocable de la discrimination à l'ensemble des phénomènes sociaux. Pour dire qu'il y a une image négative, il y a une présomption de culpabilité qui s'exerce jusque aux situations qui sont celles qu'on considérait comme des situations par essence sociales. Vous voyez, l'ensemble de ces phénomènes ont battu en brèche la vision compassionnelle qu'on avait des phénomènes au profit d'une nouvelle économie, on pourrait dire une nouvelle économie morale, pour penser, mettre en forme et lutter contre le désavantage social. Bon, et je fais un dernier point pour dire que les représentations communes ou le sens commun ne va pas toujours de pair avec la production scientifique. C'est que au même moment où on voit ce vocable de discrimination se substituer à cette vision compassionnelle de l'exclusion ou de la souffrance sociale, eh bien, les recherches en sciences sociales, elles, vont plutôt mettre l'accent de nouveau sur les inégalités. Elles vont chercher à montrer comment les inégalités non seulement n'ont pas diminué, comment elles restent structurantes des relations entre les groupes sociaux. Les travaux de Louis Chauvel sont extrêmement intéressants de ce point de vue-là. Mais surtout, je crois, le mouvement le plus significatif, c'est celui de remettre en lumière les inégalités qui se développent par le très haut de la pyramide des revenus. Hein, donc, ces travaux de Thomas Piketty, évidemment, sur les hauts revenus en France, les travaux d'Olivier Gauthier, hein, sur les working rich, comment un certain nombre de salariés, y compris, arrivent à patrimonialiser des ressources collectives, notamment au sein de l'entreprise, c'est-à-dire se comporter comme des capitalistes, y compris au sein du salariat. Bon, bref, donc la recherche, et y compris, on pourrait dire, même les mouvements sociaux reviennent vers la thématique des inégalités. Le mouvement Occupy Wall Street était extrêmement intéressant. C'était un mouvement qui avait comme slogan un objectif de dénonciation d'une inégalité économique, d'ailleurs qui avait été objectivé par les travaux de Thomas Piketty, notamment. Bon. Alors, ça c'est la façon dont la société a évolué progressivement. Et donc, l'individualisation a finalement, avec cette idée de responsabilisation des individus, a battu en brèche, finalement, la vision compassionnelle de l'exclusion. Parce que, au-delà des exclus qui avaient été la cible des politiques publiques explicites, on a assisté à une fragilisation beaucoup plus large de toutes les catégories qui étaient obligées de rentrer dans une concurrence inter-individuelle, donc dans le travail, dans l'école, dans les cycles supérieurs, mais qui n'avaient pas l'ensemble des moyens requis pour mener cette lutte. Et j'en viens donc à mon deuxième point, qui est la manière, finalement, dont se crée au sein des catégories populaires, c'est un mot à prendre avec évidemment beaucoup de pincettes, je vais essayer de le définir de manière très modeste. Donc comment au sein des catégories populaires a émergé une nouvelle figure de l'injustice qu'il faut, je crois, d'un point de vue à la fois descriptif et d'un point de vue politique, mettre en avant et interroger de manière vraiment très importante. Donc je m'appuie pour essayer de penser cette nouvelle modalité de l'injustice sur la catégorie de ressentiment. Donc, la catégorie de ressentiment, catégorie problématique, catégorie éminemment complexe, mais c'est aussi pour ça qu'elle est intéressante, et qu'on peut définir très, très simplement comme un mélange de jalousie et de mépris, hein, mais qui a surtout pour effet de fixer la conflictualité sociale sur les catégories les plus proches de l'individu. Donc le ressentiment, c'est le mouvement de rejet qui s'exprime en fait vis-à-vis du plus proche. Pour dire, Freud parlerait de narcissisme de la petite différence. En termes psychologiques, c'est comme ça qu'on formulerait les choses. Simplement, le ressentiment, c'est une passion sociale qui va réorienter la conflictualité, non plus sur celui qui est très différent de nous, mais sur celui qui est le plus près et celui vis-à-vis duquel il y a un désavantage comparatif qui va être l'objet de la dénonciation. Donc, les catégories populaires, alors catégories populaires, catégories d'ouvriers, employés, qui sont les plus exposées aujourd'hui, j'ai évoqué la tertiarisation, à la précarisation des emplois qui va avec cette tertiarisation et avec la complexification très grande du mode de vie qui accompagne cette tertiarisation. Je prends juste un exemple, mais il est toujours intéressant. Les catégories populaires du monde ouvrier traditionnel, par exemple, vivaient autour de leur emploi. Allez à Clermont-Ferrand, vous verrez des logements construits autour des usines. Et dans le Nord, c'était pareil. Dans le monde tertiaire, les emplois sont occupés sur les lieux de consommation et de travail des catégories supérieures. Donc les distances, les trajets, avec toute la perturbation du mode de vie familial, toute la complexité, tous les aléas, eh bien, sont reportés sur les catégories les plus modestes dans cette organisation-là de la société. D'accord ? Donc, il y a une série d'inégalités, on pourrait dire, qui se cumulent sur des strates qui sont les plus exposées à la précarité, à la flexibilité de l'organisation du travail, à des faibles rémunérations et à une distance croissante avec leurs emplois. Bon. Et ces catégories vont avoir, du fait de ces ensembles de transformations, une vision du monde social qui va être, et là je m'appuie sur les travaux d'Olivier Schwarz, qui a très très bien montré comment ces catégories, qui, encore une fois, quand elles étaient dans le monde ou dans un monde structuré autour de l'industrie, un monde ouvrier pour aller vite, avaient une vision du monde social qu'on pourrait caractériser comme dual. Le sociologue anglais Richard Hogarth avait dit, pour les ouvriers, il y a eux, les institutions, les puissants, les patrons, et puis nous, les ouvriers, ceux qui travaillons, ceux qui subissons, ceux qui obéissons, qui sommes exécutants. Et il montre bien comment, à cette représentation duale, c'est substitué une représentation ternaire ou triangulaire de l'espace social, où au fond, pour ces catégories modestes qui travaillent, mais donc dans une déposition relativement défavorisée ou fragile, donc pour ces catégories, il y a un monde social qui est constitué autour toujours de l'opposition entre eux, les puissants, les riches, les patrons dont les rémunérations s'envolent, et nous, qui continuons à travailler pour des revenus qui sur lesquels pèsent des charges contraintes de plus en plus fortes. Donc il y a toujours cette représentation d'opposition, mais il y a une nouvelle opposition qui n'a pas remplacé la précédente, mais qui s'y est ajoutée, qui est une représentation d'opposition avec le « e » des assistés, de ceux exclus qui sont pris en charge, subventionnés, privilégiés par la collectivité au détriment des catégories donc, qui, elles, se rattachent au mainstream, à l'ensemble social et à ses valeurs, mais qui n'ont pas les moyens de les actualiser. Et c'est ce rejet donc, de celui qui est en dessous, mais qui, en fait, est très proche du point de vue des caractéristiques sociologiques objectives en termes de ressources, d'accès au travail, d'accès à tout un ensemble de prestations. Il y a une continuité objective qui est travaillée par une fracture subjective, une fracture dans les représentations qui est en partie l'effet de la réponse politique que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc vous avez une tripartition du regard que ces catégories portent sur la société et qui introduit une dimension de rejet donc de ceux qui sont les bénéficiaires des dispositifs et on pourrait dire de l'héritage social de la gauche depuis une trentaine d'années. C'est bien ça qu'il faut avoir comme grille de lecture d'un certain nombre de recompositions de notre paysage politique et idéologique, y compris aujourd'hui en débat au sein de la gauche. Et donc j'évoquais cette catégorie de le ressentiment, c'est à la fois ce fait social, et moi j'insiste beaucoup sur le fait que c'est une réalité sociale, ce rejet ou cette mise à distance qu'on a parfois dans les entretiens, hein, beaucoup de difficultés à différencier du simple racisme ordinaire. Parce qu'évidemment, les catégorisations ethno-raciales se greffent sur cette différence et cette recréation d'un « e » et d'un « nous » dans la proximité souvent géographique et sociologique. Et donc ce fait social est l'objet d'un travail de légitimation par la réintégration de ces catégories modestes dans l'ensemble des classes moyennes par un certain nombre d'acteurs politiques. Et tout le discours de dénonciation de l'assistanat, tout le discours de dénonciation des assistés et tout le discours d'extension de la notion de classe moyenne doit se comprendre comme une forme de réassurance morale adressée à ces catégories qui va leur permettre d'attester leur différence avec ce que les Américains appellent une sous-classe d'assistés, déviants, et qui sont souvent autres du point de vue ethno-racial. Je prends juste un exemple contemporain, parce que ce n'est plus mon ministre de tutelle, donc je peux parler plus librement de ces questions-là. Laurent Wauquiez a écrit un livre pendant la campagne électorale qui s'appelle « La lutte des classes moyennes ». Jeu de mots subtil avec les catégories marxiennes. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire dans cet ouvrage il avait été connu pour ses déclarations sur l'assistanat comme cancer de la société. Les classes moyennes, c'est tous ceux qui ne sont pas des assistés. Et donc, on intègre symboliquement tous ceux qui ne sont pas précisément enregistrés dans ces strates extrêmement dévalorisées de l'assistance. Donc, c'est un processus de réassurance morale qui clive, qui ont pour effet de cliver ou d'objectiver des clivages institutionnels, des clivages qui tiennent au seuil d'attribution des prestations par les politiques publiques, mais qui font l'objet d'une naturalisation ou d'une essentialisation, souvent sur une base ethno-raciale. Je précise que les travaux des économistes américains montrent que cette fracture interne au monde ouvrier est un des éléments explicatifs les plus forts pour comprendre pourquoi il n'y a pas eu d'État-providence de type européen aux États-Unis. Bon, le fédéralisme rentre comme une dimension politique qui différencie les États-Unis de notre société, mais le clivage entre ouvriers blancs et noirs a joué comme un frein à l'identification d'intérêts de classe. Bon. Et alors la constitution de coalition qui permet d'obtenir des transformations larges des politiques ou de l'environnement socio-économique. Donc, vous avez une reconfiguration, un sentiment d'injustice qui émerge là où on ne l'attend pas, là où finalement nous sommes à la fois intellectuellement et politiquement extrêmement désarmés pour à la fois justifier ce ressentiment comme un sentiment d'injustice et pour y répondre du point de vue politique. Et là, je voudrais juste terminer en une minute sur les orientations précises qui permettraient de corriger, donc vous avez compris, cette frontière qui s'est créée au sein même du monde populaire. Les actions qu'il faudra entreprendre précisément pour corriger cette fracture, mais simplement l'orientation pour recréer du commun. Et l'orientation pour recréer du commun, il me semble que ça nous oblige à relire un petit peu de philosophie, ce qui n'est jamais une perte, mais aussi à s'interroger sur l'évolution générale de notre protection sociale. Et s'il y a une caractéristique de notre environnement, c'est la dualisation croissante de la protection sociale entre une sphère de la sécurité sociale, des assurances qui se maintient, qui se poursuit, mais dont le coût d'entrée s'élève. À chaque fois qu'il y a une réforme des retraites, vous voyez que le coût d'entrée à une retraite à taux plein s'élève. On a de plus en plus de populations qui ne parviennent pas au seuil d'accès à cette protection sociale qui reste dominante et majoritaire. Et donc, vous avez un pilier de l'assistance qui s'est créé pour compenser, pour permettre à ceux qui ne peuvent pas rentrer dans ce premier système de survivre et d'avoir des prestations minimales. Donc, le premier point, c'est de recréer de la continuité entre ces deux systèmes et de s'employer à corriger une dynamique de déversement progressive de l'assurance, pour le dire vite, vers l'assistance. J'y insiste parce que dans cette dualisation se trouve la condition de possibilité de cette nouvelle représentation du monde social qui, au fond, va perturber l'idée même d'intervention en direction des plus défavorisés et qui va structurer un imaginaire social où les plus défavorisés sont en fait des privilégiés et des privilégiés de façon indue par la collectivité au détriment de ceux qui respectent, entre guillemets, les règles du jeu. C'est le premier point. Et deuxième point, il y a un élément plus spécifique à la France, mais qui nous permet d'avancer dans la réflexion, simplement de réfléchir la protection sociale, non plus en termes de statut ou de catégorie, qui crée évidemment des seuils, des inégalités, des ruptures à 1 euro près. Et la réforme, par exemple, du revenu de solidarité active n'était qu'une manière de répondre à cette question des effets de seuil. Il s'agissait de lisser les seuils qu'il y a entre celui qui travaille et celui qui ne travaille pas pour essayer d'atténuer le clivage que Martin Hirsch avait bien perçu. Le clivage que j'évoque était tout à fait... Alors après, on peut critiquer les moyens, mais en tout cas, le diagnostic portait un point intéressant. Et donc peut-être plutôt que de s'intéresser à la construction de statuts et de catégories qui répondent le plus précisément possible à des situations, peut-être c'est en fonction des besoins précisément, et des capacités concrètes des individus qu'il faudrait s'intéresser. Je décale un tout petit peu l'exemple que je prends par rapport à ce que je viens de dire. Si vous réfléchissez, parce que hier je faisais une enquête sur le handicap, donc, on voit bien qu'il y a un basculement entre la prise en charge des personnes qui ont des incapacités selon qu'elles ont moins de 60 ans ou plus de 60 ans. Dans un cas, on les fait rentrer dans les dispositifs de prise en charge de la vieillesse ou de la dépendance, et avant, c'est les politiques du handicap. Et là, on voit bien, il y a des effets de seuil, de catégorie qui obligent à faire des dérogations pour ceux qui voudraient travailler, qui donnent une complexité infinie et qui, du coup, donnent à tout un chacun le sentiment d'un traitement inéquitable. Et au fond, si on reconfigure ces prestations autour de l'idée de besoins qui sont définis par, finalement, la capacité concrète à faire des choses. Là, évidemment, implicitement, je renvoie vers les travaux d'Amartya Sen. À l'idée d'inégalité, qui est l'inégalité de capacité à faire des choses dans la société. on appelle ça capacité pour le moment. Mais l'idée, c'est vraiment, est-ce qu'il n'y a pas autour des besoins et des capacités concrètes de la personne une manière de réorienter un certain nombre de protections, de les reconfigurer pour ne pas donner prise à ces différences, à ces seuils qui, loin d'être simplement des variables d'ajustement de la politique publique, sont en fait structurantes d'un imaginaire social et politique beaucoup plus large et qui, en fait, donne une prise aux discours les plus conservateurs, hein, qui arrivent parfaitement à associer augmentation des inégalités par le très haut, patrimonialisation croissante et développement de l'assistance, dont, comme j'ai montré, développement qui n'a pas en lui-même les ressources de sa propre légitimité. Je vous remercie.
Merci. Merci pour cette remise en perspective très, très claire, très intéressante par les problèmes qu'elle soulève, par les pistes aussi qu'elle propose. J'en fais pas le cheminement, hein, tout simplement. Je trouve particulièrement intéressante l'analyse que tu fais du point de bascule dans la représentation de l'injustice avec l'émergence d'une relation en fait triangulaire pour ces catégories fragilisées qui craignent tout autant de se voir basculer dans le camp des exclus et en même temps scandalisés parfois, outrés parfois par le fait qu'eux ne bénéficient d'aucune aide et financent les besoins des autres et alors que les leurs, ils estiment, ne sont quasiment pas pris en compte. Il faudrait se demander si cette tripartition que tu évoques ne s'exprime pas finalement dans le souci que nous aurions nous-mêmes de décibler un petit peu à travers, par exemple, la réflexion qu'on propose aujourd'hui, le discours de l'injustice. Est-ce que le fait de dire « attention, il faut arrêter de penser en termes de population très ciblée, il faut essayer de repenser les écarts à l'ensemble de la société », qu'on pourrait justifier en évoquant le type d'études que tu as mobilisées qui indiquent qu'on lutte mieux, par exemple, contre la pauvreté avec des mesures générales qu'avec des mesures de ciblage, peut aussi relever de quelque chose qui serait de l'ordre du ressentiment, d'une certaine manière, parce qu'après tout, pourquoi pas, qui serait de dire, attention, nous-mêmes, nous sommes dans cette logique-là, c'est-à-dire qu'on participe de ce mouvement de tripartition sur lequel tu insistes. Alors, après, je me posais la question de savoir si la redéfinition autour de la notion des besoins n'avait pas pour objectif ou pour effet de s'inscrire dans cette logique d'individualisation dont on parlait. Donc, est-ce qu'on est encore dans une logique de ciblage ? Après, on fait ça après. Et puis, de ce point de vue-là, je pense que Louis a beaucoup d'éléments à apporter, puisque c'est sur cette base-là quasiment qu'on a eu envie de créer à un moment où éprouver le besoin de créer l'Observatoire des inégalités, dont il est la cheville ouvrière, le principe, le moteur, tout ce qu'on veut, la cause ultime.
Tout en même temps.
Le principe premier, comme on dirait en philosophie, et qui a donc beaucoup œuvré pour la naissance de cet organisme, qui a beaucoup œuvré pour la persistance de celui-ci, qui en a fait un lieu important de centralisation d'informations, de discussions, et qui a publié aussi, je le signale, un livre intéressant de synthèse sur la société française en 2009 qui s'appelle « Déchiffrer la société française ». À toi, Louis.
Écoute, Patrick, je te remercie. Tu as aussi beaucoup œuvré pour cet observatoire. Et d'ailleurs, il est paradoxal de me poser la question de répondre à comment repenser les inégalités dans un cadre élargi, parce que à l'origine de cet observatoire, le penseur, c'est quand même plutôt lui, jeune professeur en philosophie, et moi, je suis plutôt le journaliste qui met en œuvre les données et l'appui derrière. Ce que je vais essayer de faire avec vous, rapidement, très rapidement, c'est d'essayer de faire un peu un bilan de ces 9 années d'existence et d'essayer d'en tirer quelques enseignements, justement, pour repenser dans différents domaines la question des inégalités. Je ne vais pas parler du travail proprement dit de l'Observatoire des inégalités. Demain, Cédric Rio, demain matin, pourra en parler, notre responsable du réseau européen sur les inégalités. Et évidemment, vous avez tous les éléments factuels sur notre site internet inégalités.fr. Je veux simplement rappeler que ma position, c'est plutôt celle d'un petit patron d'association qui essaye de survivre dans un monde, un univers difficile, de brut, et avec un budget très modeste. Et donc, je vous appelle tous à nous soutenir, bien évidemment. L'Observatoire des inégalités ne reçoit que 10% de fonds publics, donc important d'avoir d'autres ressources. Juste deux mots sur le pourquoi on a créé cet observatoire avant d'en venir au fond. Il y a deux principes fondamentaux de ce qu'on a ressenti donc en 2002. C'est ce décalage entre les discours sur la société française de l'époque, je vais y revenir, l'individualisme, l'équité, etc., et notre perception qu'on en avait, nous. Alors, c'est immodeste, hein, mais c'est ce qu'on pouvait en voir à travers les éléments qui étaient en notre possession. Et le fait, deuxième point, que par rapport à ça, le discours de présentation d'éléments factuels par l'institution était très loin d'être à la hauteur. Et on va le voir, ça a changé. Mais enfin, il y avait un décalage à peu près complet entre l'état des lieux et puis ce que produisait le service public statistique de données sur la question des inégalités. Et notre objectif, ça a été de produire à la fois des éléments factuels et de s'interroger sur ces grands mécanismes de formation des inégalités, de produire un état des lieux et de l'analyse. Et déjà, au bout de 9 ans, avant de rentrer dans le comment repenser ces inégalités, on peut déjà voir que finalement, il subsiste des interrogations extrêmement fortes dans ce domaine. Prenez par exemple la question de, pas plus tard qu'hier, on me demande d'organiser quelque chose sur les causes de la montée des inégalités, notamment des inégalités de revenus. Je suis extrêmement démuni et je vous mets en défi de citer 5 articles sur le sujet de pourquoi on a une remontée de la question des inégalités, sauf quelques brefs paragraphes ici ou là. Il y en existe, mais des articles de fond revenant sur l'ensemble des causes, il y en a extrêmement, extrêmement peu. Bref, qu'est-ce qu'il faut repenser il en existe, bien entendu. Mais c'est sans commune mesure par rapport au défi qui est devant nous, hein, en termes d'explications très souvent idéologisant sur la montée des inégalités, parce que les gens acceptent les inégalités, le réganisme, le satirisme, etc., et qui va assez rarement sur le fond. Bref, à partir de ce bilan, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Comment repenser cette question des inégalités dans un cadre effectivement un peu plus large? On le ressent bien dans la discussion aussi qu'on peut avoir avec Patrick, que il faut tirer des enseignements et aller c'est un bon moment pour aller un peu plus loin. Mon premier point, c'est qu'il faut toujours repenser l'état de l'information sur le sujet. Et là, je suis désolé. Malheureusement, en dépit de nos efforts considérables, nous n'avons pas tout résolu. C'est fort regrettable. Je pense qu'on a été un petit aiguillon, un petit grain de sable, qui a permis de temps en temps à l'INSEE de se dire « Ah bah oui, ça serait bien de publier quelques données dans certains domaines. » Il faut rester extrêmement modeste. Dans de très nombreux domaines, on est tout à fait impuissant. Je ne peux pas, personne ne peut vous parler sérieusement de l'évolution des revenus sur longue période. Il y a les travaux de Thomas Piketty qui portent sur des données avant imposition. Je n'ai que des données 2004-2008 assez précises sur l'évolution, ou 2009, l'évolution des hauts revenus. Donc on ne peut pas vous en parler réellement dans le détail de niveau de vie des catégorisés après impôts. Je ne peux pas vous dire quel est le taux de chômage des Noirs, des Jaunes ou autres. Et ça, c'est assez grave, parce que je ne suis pas capable de dire s'il s'agit de discrimination ou d'inégalité sociale. Je ne suis pas capable de vous dire quel est le taux de pauvreté à Poitiers. À vrai dire, comme je travaille dans un bureau d'études privé qui a quelques éléments, en privé, je serais capable de vous donner quelques éléments, ce que ne fait pas l'INSEE avec des méthodes un peu mancales. Et ça, ça me semble assez grave. De même, dans le domaine des inégalités hommes-femmes, je suis capable de vous dire des choses extrêmement brutes, extrêmement moyennes et générales, mais je pensais en particulier des inégalités dans le domaine de domestique, qui sont très, très parcellaires. Je pourrais continuer comme ça. Je pense qu'on reste un pays où on a le goût du bon mot, de la belle rhétorique, du pamphlet. Je pense en particulier, par exemple, à des gens comme Éric Zemmour. Et cette situation, finalement, est favorable à tout le monde, puisque tout le monde peut avoir raison en même temps. Tant qu'on ne peut pas se départager sur des éléments factuels précis, ben, moi, je peux vous faire l'article sur la baisse des inégalités comme celui de l'explosion des inégalités, parce que, malheureusement, je suis quand même parfois assez démuni. On a très souvent aussi, je partage ce que tu disais, Nicolas, sur la question de la pauvreté, une dramatisation à outrance. Voilà. La pauvreté n'est pas en train d'exploser en France, loin de là. Voilà le premier point sur ces indicateurs. Donc encore du travail à faire. Le deuxième point, qui est repenser l'égalité au fond, c'est plutôt le travail de Patrick, mais je peux lancer comme ça quelques idées. Et je vais être très bref parce que si Nicolas l'a bien déjà expliqué, la lecture actuelle qu'on a des inégalités, je vous renvoie à l'ouvrage de Patrick « Repenser l'égalité des chances », reste extrêmement individualiste. Et on a encore beaucoup du mal à sortir de ça. Je ne reviens pas à ce qui a été dit sur la question des discriminations. On se pose la question de la compétition, d'une compétition juste, mais très rarement de la forme de cette compétition. Et à certains égards, la question de la diversité, aussi souvent mise en avant, peut-être pour moi, en partie, une forme de diversion. De diversion par rapport à la question sociale. De la même façon, la question de la parité peut être aussi une forme de diversion, je vais peut-être un peu loin, mais par rapport à la précarité. Pour certains, la parité et la précarité peuvent faire bon ménage. On a beaucoup parlé de la parité au sein du gouvernement, par exemple. On a peu parlé de l'origine sociale des ministres ou des députés, ou de l'origine ethno-culturelle ou de leur âge. Dans cette question de repenser les inégalités, il me semble que très souvent, encore très généralement, la question sociale reste au second plan. Et par rapport à l'énoncé du colloque, moi, je me suis demandé si, finalement, ce n'était pas, d'une certaine façon, de lutte de classe dont on avait besoin, dans le sens où il s'agissait toujours bien de rapports de domination de groupes sociaux, les uns contre les autres, avec des intérêts divergents. Alors, bien entendu, il faut peut-être pas le repasser en termes de lutte de classe et de propriété, de rapport de propriété aux moyens de production, mais on a bien là une question au moins de domination sociale. Et si on veut aller plus loin, le travail qu'il faut faire, c'est se poser la question des modèles, c'est-à-dire comment refonder les modèles de société. Je pense qu'on n'est pas les seuls à penser ça, loin de là. Le travail de François Dubé sur l'école va dans ce sens. En disant ça, le soutien scolaire ne sert à peu près à rien si on ne change pas la façon de faire l'école. Donc c'est un domaine qui est de plus en plus... c'est la même chose dans l'entreprise, par exemple. Il ne faut pas se poser simplement la question des inégalités de revenus et des super-riches, mais aussi la façon dont est organisée l'entreprise. Ça fait peut-être un peu soviétique comme propos, mais n'empêche que ce que je pense, c'est que si on ne change pas le système au fond, si on ne se pose pas la question dont tout ça est articulé... ce sera toujours qu'un pis-aller, un peu comme l'aide alimentaire pour les questions de développement. Il faut toujours s'interroger sur la façon dont le système classe, évalue, classe et distribue les mérites. Alors, il y a bien d'autres interrogations qu'on devrait avoir sur la question des inégalités, par exemple sur les processus d'intériorisation des inégalités. Qu'est-ce qui fait qu'on pense qu'on se trouve... qu'on se situe à la bonne place, et là je ne développe pas, mais il y a tout un arsenal de dispositifs qui fait que les gens se situent à la place, enfin pensent se situer à la place ou à une bonne place, et une interrogation sur le haut et le bas, entre eux, pour parler comme Grignon et Passeron, c'était déjà il y a 30 ans, d'un côté le misérabilisme, c'est-à-dire tout voir en termes de rapport de domination, le dominocentrisme, comme il en parlait, et de l'autre côté le populisme, c'est-à-dire idéaliser la situation des dominés. C'est quelque chose qui, à mon sens, reste extrêmement difficile. Songez par exemple à la question des pratiques culturelles. Peut-on hiérarchiser les pratiques culturelles ? Ça, c'est un domaine où on le comprend bien, mais il y a des domaines où on en parle beaucoup moins. Je pense que, par exemple, il y a un certain mépris social au sein des élites, notamment pour les femmes au foyer, dans ce pays, sur lesquels on mériterait d'avoir un peu plus de travaux et de réflexion. C'est un exemple concret. Il y a, à l'opposé, une sorte d'idéal des grandes écoles qui mérite peut-être aussi d'être repensé. Bon, bah, ça, c'est pour la partie de mépris social. Et de l'autre côté, on a des discours sur le goût des ouvriers pour les études courtes. Voilà un domaine où il me semble que on reste quand même relativement démunis. C'est peut-être qu'il faut réactualiser Grignon et Passeron. Troisième point, c'est moins mon champ d'intervention, mais voilà, je suis en contact avec beaucoup de chercheurs, et pour moi, c'est important. Il reste toujours à repenser la recherche. Alors, on s'est fondé à un moment où il y avait, là on l'a déjà évoqué, développement d'un discours très individualiste, de travaux à la fois qualitatifs et de l'individualisme méthodologique, un certain mépris pour les formes, soit de rejet pour les formes d'explications structurelles, des inégalités, du structuralisme, soit un mépris pour ceux qui travaillaient sur les questions globales de tendance de la société. Je pense en particulier aux travaux d'Henri Mandras. C'est en partie trompé dans certains domaines, mais qui faisait ce travail-là un peu d'accumulation de savoirs, de tendances factuelles globales sur la société. Cette problématique-là, à mon sens, elle a en partie évolué. Les travaux qui ont déjà été évoqués le montrent. L'Observatoire des inégalités, c'est aussi le produit d'un courant de chercheurs jeunes et pas toujours, avec lesquels on a travaillé. En même temps, il me semble qu'il reste un déficit très, très grand dans le champ de la recherche entre les travaux sur... Alors, c'est très bien d'avoir des très bons sociologues de la pauvreté, de l'exclusion, de l'immigration, de l'éducation. Il en faut. Mais en rapport, il me semble qu'on reste extrêmement démunis du côté de la consommation, de la sociologie des revenus et de la mobilité sociale. Le problème n'est pas de tout ou rien. Le problème est du déséquilibre d'analyse qu'on a. Effectivement, on a quelques travaux nouveaux qui se focalisent sur le haut du haut de la hiérarchie. On reste quand même sur notre fin en termes d'analyse du fonctionnement global, par exemple de la sociologie des revenus. Bref, il faut encore repenser ces inégalités du point de vue aussi de la recherche, car du travail à faire. Quatrième point, il faut en permanence, et ça c'est notre souci du quotidien, toujours se poser la question de la façon dont on va diffuser cette information sur les inégalités. C'est bien de produire, si cette production elle sert qu'une toute petite minorité militante déjà convaincue, c'est à peu près un non-sens. Alors, cette question des diffusions des idées est essentielle. Au passage, c'est tout à fait rigolo, comme l'Observatoire des inégalités est régulièrement pillé sans être cité, puisqu'il ne participe pas de la sphère peut-être assez universitaire. On est régulièrement pillé sans être cité. Ça, c'est pas très grave. Nous, on est content que nos idées soient un peu intégrées. Mais au-delà de ça, à mon sens, c'est tout à fait une impasse que de produire de l'information gratuite qui serait réservée à des surdiplômés qui ont déjà les moyens intellectuels et financiers de se payer cette information. C'est peut-être parce que j'ai été très longtemps journaliste dans un magazine qui se vend que je pense ça. Mais en même temps, c'est assez vain de donner beaucoup de son temps, en grande partie bénévolement, pour produire une information qui va à ceux qui l'ont déjà. D'une certaine façon, c'est accroître les inégalités face à l'information. Et se développent beaucoup de petits cercles entre amis où on débat des inégalités, on s'étribe dans des forums sur Internet sans trop se préoccuper de où va tout ça. D'une certaine façon, moi, ce qui m'intéresse, on voit d'où viennent les gens sur le site de l'Observatoire des inégalités, c'est quand les supporters du club de foot de Poitiers ou d'Amiens se disent « Ah tiens, regarde !» et ils discutent entre eux et moins des cercles déjà convaincus. Deuxième point sur cette question de la diffusion, je crois qu'il faut se poser la question aussi de l'intellectuel médiatique, les conditions de production d'un discours entendable, le bon mot, la phrase simple, les idées simples, la mise en scène, le drame, la nouveauté permanente. Comment on met en scène les idées et comment, quand on essaye de rentrer dans un discours un peu plus modéré et complexe, là, je crois que les autres intervenants le savent aussi, ben, ça devient beaucoup plus difficile. Et ça, on est très souvent, à mon avis, confronté à cette question-là. Il faut se poser aussi le rôle de l'expertise auprès de ceux qui produisent des politiques publiques. Il me semble que ça reste un petit monde restreint avec les mêmes personnes qui tournent. C'est comme ça qu'à un moment, tout le monde disait que les baisses d'impôts, c'était bien. Il y a un moment, tout le monde disait l'assouplissement de la carte scolaire, c'était bien. Et aujourd'hui, tout le monde dit, ouh là là, c'est mal, il faut faire payer les riches. Par exemple, c'est faire payer les riches, c'est bien. C'est pas grave si on raconte n'importe quoi. Tout le monde se met d'accord et c'est les mêmes qui discutent entre eux de la question. Alors bien sûr, en plus, il faut s'interroger sur le fonctionnement des médias par rapport à cette question des inégalités, l'exigence de gains de productivité, le fonctionnement sur le mode du stéréotype, tout ça produisant une information donnée sur les inégalités. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à tout ça? S'en affranchir, c'est pas facile. Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. C'est notre travail d'observatoire des inégalités qu'on essaye de faire avec des moyens très modestes. Je crois qu'il y a la possibilité d'essayer de toucher directement le public et un public élargi, si on veut élargir la question des inégalités, à travers, par exemple, la presse féminine, la presse quotidienne régionale, d'autres formes de médias que des médias traditionnels qui traitent de la question des inégalités. Je pense qu'un deuxième axe, et c'est notre axe de travail cette année, c'est de s'adresser de façon privilégiée à un public jeune, être présent par exemple dans les manuels scolaires, aller dans les établissements scolaires et de mener un travail de fond avec les personnes qui sont en contact de cette réalité sociale, les enseignants, les travailleurs sociaux, les éducateurs, etc. Pour moi, d'une certaine façon, penser les inégalités dans un cadre élargi, c'est bien le public. C'est-à-dire, c'est bien sortir du public traditionnel qui parle des inégalités, d'un milieu favorisé. C'est plutôt 20 minutes et maxi que Libé et le monde diplomatique, pour être clair. Voilà, pour qu'on ait un peu le temps de débattre, je vais conclure rapidement. Finalement, quel bilan on pourrait faire de notre observatoire? On en parlait avec Patrick tout à l'heure. On aurait pas envie de dire, on a gagné. Les inégalités sont à la mode aujourd'hui. Il y a très peu d'élus, par exemple, qui interviennent sans parler de la question des inégalités et de l'injustice. D'une certaine façon, et ça, Nicolas l'a commencé à l'évoquer, c'est peut-être mauvais signe. C'est-à-dire que plus on est proche, plus on se confronte et plus on est sensible aux inégalités. Donc cette sensibilité qu'on a en particulier en France, c'est peut-être que justement, il y en a moins. Il faut quand même rappeler que la France est un des pays les moins inégalitaires au monde. Il me semble qu'on reste très loin du compte du point de vue de la réflexion. Là, je n'ai pas le temps de continuer à développer, mais peut-être que la question des inégalités aujourd'hui, l'explosion des inégalités, la dramatisation, c'est une forme de substitut intellectuel à la fin du capitalisme. C'est-à-dire que voilà, on est passé de remettre en cause le capitalisme à quelque chose un peu plus propre qui serait la question des inégalités. Et je crois qu'on est très loin d'une réflexion globale sur les inégalités dans leur ensemble. Pour moi, le débat aujourd'hui, par exemple, sur les hyper-riches, les super-riches, c'est une façon de s'exonérer d'une partie de la société, de s'exonérer sur une forme de redistribution plus large. Et là, je n'ai pas le temps de continuer, mais pour moi, principalement, aujourd'hui, la question fondamentale, c'est celle des inégalités scolaires. Et là, on a un monde devant nous. D'une certaine façon, les inégalités sont aujourd'hui solidifiées, légitimées par le titre scolaire. Et les privilégiés, du point de vue de ça, étaient ceux qui, auparavant, étaient les moteurs de la transformation sociale. Et du coup, il y a un très, très fort conservatisme dans ce domaine. On peut se demander, au fond, si aujourd'hui, un des moteurs principaux de la structuration dans nos sociétés des inégalités, ce n'est pas l'éclosion d'une grande bourgeoisie, pour parler comme Marx, intellectuelle. Voilà, je crois que vous l'avez compris, Il nous reste encore beaucoup à faire pour avancer dans ce domaine des inégalités. Je crois que notre travail, il est très modeste, avec des moyens extrêmement réduits. Il est complémentaire et il sert d'outil à ce que peuvent faire d'autres, complémentaire au travail, par exemple, des associations, des ONG, etc., avec qui on a de bonnes relations, mais aussi aux formes de, je pensais au roman, aux formes de représentation fictionnelle de ces inégalités, ce qui n'est pas notre rôle, mais je crois que tout ça peut s'articuler assez bien au fond. Voilà, merci de votre attention.
Alors, on est vraiment assez en retard, mais merci Louis d'avoir resserré un petit peu ton propos. Alors, l'idée, peut-être plutôt que de prendre le temps de discuter entre nous, on va directement donner la parole à tout le monde pour qu'on puisse discuter sur les questions qui viennent d'être abordées, sachant que Louis a beaucoup insisté sur la question de l'état de l'information sur les inégalités, en évoquant les différents acteurs de la diffusion, de la production, de la connaissance dans les inégalités. Bon, il a dressé un tableau un peu sombre, mais il sait aussi reconnaître, je l'ai lu sur ce point, qu'on avait aussi beaucoup progressé au fil des années passées sur cette question des inégalités, qu'on avait avancé, parfois un peu sur un mode un peu contraint, mais qu'on a découvert de nouveaux segments d'inégalités, de nouvelles poches d'inégalités, qu'il y a des éclairages nouveaux qui ont été apportés. Mais la question aussi qui nous reste sur les bras, d'une certaine manière, c'est est-ce que le fait de voir croître le corpus des informations sur l'inégalité va être suffisant à nous faire agir de manière suffisamment radicale pour résorber les inégalités les plus injustes de celles qu'on observe. Par exemple, on en sait suffisamment déjà pour intervenir de manière massive. C'est-à-dire si on agissait, je ne sais pas, à proportion de 10% de ce que l'on sait en termes d'intensité d'information, on sait par exemple qu'il y a des enfants très très jeunes qui meurent par millions dans le monde. On le sait très exactement. Ce n'est pas pour autant qu'on agit. Alors, il y a les questions d'identité nationale, il y a les questions d'ordre mondial de l'économie, du commerce, etc., qui font bien sûr obstacle. Il y a des intérêts très ancrés, très retranchés qui font qu'il y a des blocages. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a une sorte d'abîme qui se creuse entre tout ce que l'on peut faire dans l'ordre de la connaissance et ce que l'on peut envisager ensuite dans le régime de l'action. Donc la question, c'est est-ce qu'il s'agit simplement de faire surgir alors de nouveaux objets de connaissance? Est-ce qu'il s'agit de faire surgir la connaissance sous une forme un peu différente? Est-ce qu'on parle des bonnes choses? Comment organiser un petit peu tout ça? En tous les cas, moi, c'est un des angles que j'ai trouvé intéressant dans la discussion, parce que d'une certaine manière, on a eu trois manières aussi de parler des inégalités. Alors, on a parlé sous un certain angle, Nicolas l'a repris aussi sous un autre, et Louis, en conclusion, l'a fait également à sa manière. Et une manière qui est aussi adossée à des pratiques professionnelles. Donc ça, c'est intéressant de le souligner, et ça renvoie à ce que Raphaël disait hier sur ce qui peut aussi être constitutif d'un problème pour nous, c'est le fait qu'il y ait des langages séparés sur des objets qui, dès lors, apparaissent séparés parce que le langage lui-même qui s'en saisit se trouve l'être. Voilà. Donc, à vous la parole. Est-ce que vous avez des questions, des demandes de précision? On discute un peu librement et rapidement.
Oui, bonjour. Moi, c'est une question pour Nicolas Duvoux. Enfin, non, en fait, pour tout le monde. C'était sur. c'était plutôt pour réagir par rapport à ce que tu as dit sur la triangulation, le passage d'une vision binaire à une vision ternaire des relations sociales. Donc, dans ton intervention, tu lis des subjectivités, des représentations individuelles de soi à l'évolution des dispositifs de gouvernement de la pauvreté, notamment les politiques de ciblage. Et est-ce que, pour expliquer ça, il n'y a pas un troisième terme dont tu ne parles pas? C'est l'évolution des discours politiques dépositaires de la parole contestatrice, révolutionnaire, les discours d'extrême gauche, pour dire rapidement. Est-ce que là, il n'y a pas aussi une fragmentation dans les années 90 avec l'apparition de tout ce qu'on appelait le mouvement des 100, assez droit au logement. Alors, je n'ai pas du tout travaillé là-dessus, j'ai plutôt un regard de praticien sur la chose. Et est-ce que, finalement, à la fois, c'était très intéressant parce qu'ils inventaient des nouveaux répertoires de lutte, ils subvertissaient aussi le discours contre l'assistance. Un des slogans de AC dans les années 90, c'est « on veut tous des logements fictifs, et des emplois fictifs et des logements de fonction ». Donc il y a un discours subvertif très fort, mais à la fois ça participe d'une fragmentation et d'une mise en exergue d'une certaine catégorie de très pauvres ou d'assistés qui se différencient des schémas binaires qui, dans la lutte, emploie de plus larges catégories de population. Donc je ne sais pas si on peut lier aussi, si ça n'a pas participé au processus, et parfois peut-être au détriment de certains membres de ces organisations qui, paradoxalement, venaient aussi de mouvements libertaires ou de mouvements d'extrême-gauche quand ils étaient un peu plus petits.
Question qui anticipe déjà sur certains aspects de la table ronde de l'après-midi. Qui parle au nom de qui hein, c'est un point important. Nicolas, peut-être, commence.
Disons que c'est une anecdote personnelle, mais c'est les rares fois où j'ai été invité par les mouvements dont tu parles à présenter mes travaux. Je suis ressorti tard et dans un état problématique, parce qu'évidemment, le discours sociologique, y compris qui va pointer les limites ou les effets un petit peu pervers de certaines formes de mobilisation, et même l'objectivation en tant que telle, est très difficilement acceptable pour les gens qui sont dans la lutte. Et ça, c'est quand même une question, qu'on doit se poser à un moment, quand on est en tout cas observateur, justement. Je pense que tu as raison. C'est-à-dire que les mouvements des sangs, ça Daniel Mouchard l'a très bien montré dans son livre « Être représenté », les mouvements des sangs ont essayé de politiser le rapport d'assistance. Et ils ont essayé de le politiser en montrant qu'il y avait là un phénomène d'injustice qu'il fallait corriger par des droits qui étaient inconditionnels. C'était un peu le mouvement des sangs, c'était de dire « il faut des droits à et il faut avoir une pratique de l'illégalisme qui soit tempérée, mais il faut en tout cas agir pour. » Et évidemment, et alors ce n'est pas du tout une critique de leur action, mais évidemment, ils ont participé, mais avec d'autres, avec des gens, par exemple, comme Roselyne Bachelot, ils agrègent les uns et les autres, dans un même mouvement, pour bien dire que ça va par-delà le clivage gauche-droite, dans un mouvement qui a mis cette question de l'exclusion et de la situation des sangs comme l'objet de l'orientation politique. Donc, ils y ont participé. La conflictualité sociale et le réseau associatif plus institutionnalisé, qu'en fait de la délégation de services publics la plupart du temps, et les acteurs politiques et qui étaient en responsabilité explicite, je pense à Roselyne Bachelot, parce que c'est elle qui a structuré les réseaux associatifs quand l'exclusion était grande cause nationale en 1993. Donc, pas pour rien que... C'est-à-dire, on a une orientation, une façon de mettre en mots, M-O-T-S, puis M-A-U-X aussi, le monde social. Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans les années 90, on a bien eu cette focalisation. Et on observe de la même manière, c'est-à-dire transversale aux différences idéologiques traditionnelles, au clivage gauche-droite, on observe dans les années 2000 une réorientation vis-à-vis de ce discours qui faisait des exclus les cibles prioritaires de l'action publique. Donc c'est tout à fait juste, leur mouvement rentre en ligne de compte, et bon, pour le dire de manière un peu moins politiquement correcte, c'est évident, par exemple, que la présence des sans-papiers dans les mouvements contestataires a pu jouer un rôle repoussoir pour d'autres catégories de la population, c'est évident.
À partir des auteurs que tu as évoqué dans ta présentation, est-ce que toi, tu as des éléments aussi est-ce que ces écrivains, c'est-à-dire pas tellement les œuvres et les personnages, mais ces écrivains-là se situent comme, ou se représentent eux-mêmes comme des porte-parole de victimes?
Oui, absolument. Oui. Belengo Pei comme Isaac Rosa, tous les deux sont des militants convaincus et effectivement participent à de nombreux mouvements, notamment le mouvement des Indignados, dont vous avez dû suivre l'actualité récente en Espagne. Ils étaient vraiment toujours, pas en tête des manifestations, mais en tout cas, ils étaient là. Ils ont une expérience militante dans leur vie et ça se traduit dans leur œuvre, notamment par cette espèce de sortie du tout mémoriel là, dont je parlais tout à l'heure, pour laisser une place importante au sang, au sang-part, qu'on voit apparaître de façon fantomatique dans ces œuvres, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais qui sont toujours extrêmement présents et de plus en plus dans leur fiction. Toutefois, dans le cas de Belengo Pegui, elle a vraiment une perspective marxiste, un langage lutte des classes, et du coup, peut-être que la question des exclus Et dans son cas, en tout cas, on peut dire qu'elle est en parallèle avec la question vraiment de l'exploitation et du travail, qui est centrale dans son œuvre, et ça en fait vraiment une œuvre très particulière dans le paysage littéraire espagnol, extrêmement, oui, unique. C'est une position qui est pas une position de camp, elle est un peu toute seule dans sa catégorie de ce point de vue.
Mais intellectuellement datée, alors, si c'est un langage marxiste.
Ah oui,
années...
oui, absolument, qu'elle essaye de réactualiser.
Et est-ce qu'elle utilise des moyens textuels particuliers, justement, parce qu'elle leur trouve, elle alors, trouve que ce langage-là a une forme d'efficacité particulière
absolument.
Pour cette situation
Au niveau des formes que ça peut prendre, très souvent, j'en parlais hier avec certaines personnes, on reproche à Belén-Gopegui de simplement dépoussiérer des formes anciennes, du genre du réalisme social des années 50, et de ne pas faire de nouveau, en quelque sorte. Et en réalité, déjà, le fait de reprendre certains de ces procédés, elle est également très inspirée du théâtre de Brecht. Ce mélange de procédés-là est justement particulièrement novateur et produit un réalisme critique qui est vraiment particulier. Oui.
Oui. Oui, je voulais aller dans ce même sens parce que j'ai travaillé pour ma part sur le roman de la transition démocratique oui. en Espagne et j'ai été frappé du fait qu'on retrouve en réalité des problématiques et même des termes puisque le réalisme critique, ça a été inventé il y a 50 ans. Absolument. Avec Tiempo de Silencio, et on retrouve des problématiques qui ont 50 ans en Espagne et qui reviennent au devant de la scène bon, avec des fonctions et des nécessités nouvelles, en particulier avec la crise et le mouvement des Indignados, mais on retrouve des choses qui sont très anciennes et qui ont été très sensibles au moment de la transition démocratique, en particulier ce qu'évoquait Patrick et que vous avez confirmé, c'est-à-dire une espèce de conflit entre une approche historique et une approche sociale de la contemporanéité espagnole. Et j'ai été frappé aussi, j'étais à Madrid le week-end dernier, par cette identification entre certains éléments du mouvement des Indignados et les images qu'on pouvait voir, en particulier au musée d'art de Reina Sofía, des mouvements des années 60. C'est-à-dire que il y a des imitations, il y a des formes d'imitation formelles, du discours extrêmement sensibles. Alors sur le plan littéraire, on peut en ce moment peut-être douter de la nouveauté radicale ou très forte de certains... De certaines de ces recherches littéraires. Et en même temps, il y a un enjeu qui est très fort aussi, qui est de sortir d'une représentation justement historique, binaire des vencidos et des vencedores, des vaincus et des vainqueurs, qui continuent à se sentir depuis la Ley de Memoria, et, enfin, y compris aujourd'hui, sortir de cette représentation pour avoir une représentation sociale assez différente. Donc voilà, c'était simplement pour dire combien j'étais frappé de cette reprise de certains thèmes et en même temps de l'actualité très forte, la nécessité de trouver des langages et des formes nouvelles pour dire une situation sociale qui, elle, est quand même nouvelle aussi.
Merci. Nicolas, tu
Je voulais rajouter un mot par rapport à une réflexion que tu as faite sur Louis, sur la production de données générales. Parce que l'idée, c'est quand même d'avoir un cadre élargi pour penser les inégalités. Et en fait, je ne sais pas si c'est qu'elles n'existent pas, ces données générales, ou si ce n'est pas qu'on va les chercher au mauvais endroit. Parce que je crois qu'en France, on a quand même un logiciel de pensée, en tout cas dans les sciences sociales, qui est très formaté par, tu as cité Henri Mandras, l'école des annales, la production de l'histoire de longue durée, c'est quand même ça, les schémas intellectuels dans lesquels on raisonne, et dont une partie de la sociologie s'est inspirée. Encore une fois, les gens comme Chauvel aujourd'hui restent dans une ligne assez proche de celle de Mandras, mais en même temps, on voit que la représentation de l'ensemble de la société, de l'espace, des revenus, elle est aujourd'hui fait l'objet d'une division du travail dans laquelle on a du mal à retrouver cette orientation. Et d'un certain point de vue, c'est pour ça que dans la confrontation, on voit beaucoup plus les économistes s'emparer d'un discours général, tandis que les sociologues vont être du fait même de la demande publique. C'est-à-dire quand on agit avec des collectivités territoriales, des acteurs, on répond à une demande publique. Et quand on demande une évaluation d'un quartier de la politique de la ville, ben, ça formate l'objet avant même qu'on ait pu réfléchir à le construire. Donc d'un côté, c'est l'économie la seule, pour participer à des cercles d'évaluation de politique publique, quand on demande des données nationales, on fait appel à un économiste, et puis pour regarder les dégâts au niveau très local, là, on fait appel au sociologue, parce qu'on pense que c'est lui qui est le plus à même de porter un diagnostic de type clinique. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas ce dégalage-là d'un côté et de l'autre. Et de l'autre, pour le coup, la littérature, parce que finalement, bon, comme tout universitaire, je lis très peu, parce que pas de temps, mais les représentations du monde moral des classes moyennes, elles sont introuvables dans la production de ma discipline. Et on la trouve dans la littérature, mais avec du coup des orientations et des, éventuellement un regard moral, entre guillemets, pas moralisant, mais moral, que notre discipline interdit de porter, pour éviter de tomber dans les deux actes. Et donc c'est pas dit qu'elle soit, que l'information n'existe pas, c'est peut-être juste qu'elle n'est pas là où on va la chercher. Et juste pour répondre à Patrick, mais après j'arrête, je suis pas sûr, parce que tu es parti de l'idée que plus on était informé et plus on est solidaire, en disant que voilà, plus on aura, s'il y a un hiatus, il y a un différentiel qui est difficilement, enfin qui nous rend perplexe, parce qu'on sait des choses et on n'agit pas. Je me demande s'il ne faudrait pas poser la question autrement, c'est-à-dire c'est l'information participe aussi éventuellement de la difficulté à faire du commun avec quelqu'un d'autre dont on sait qu'il est par exemple assujetti à une tranche d'impôt légèrement différente de la nôtre. Donc l'information peut aussi avoir un effet corrosif.
Clivant, ouais.
Et moi je le vois à un niveau très très micro, quand les gens savent ce que touche leur voisin, ils les détestent.
Oui, pour répondre sur le Nicolas, sur le, elle n'existe pas. Je persiste quand même. Elle n'existe pas dans bien des domaines. Cette information, je parlais du taux de pauvreté. Je suis incapable de vous donner le taux de chômage au niveau local, ce qui est quand même plutôt surprenant. Mais je suis pas capable de vous proposer des représentations récentes de l'espace des catégories sociales, par exemple. Et ça, ça me semble problématique. Alors, à quoi c'est dû? Je pense que l'individualisme méthodologique a fait des ravages en certaines années dans toute une partie de la sociologie, donc qui est partie chercher des choses qui avaient peu d'intérêt. Je pense que la commande publique, très logiquement, s'est centrée sur là où ça fait mal, la question de parler d'immigration, de pauvreté, d'éducation, bien entendu. Mais je crois que c'est aussi la misère de la sociologie que d'être aussi tributaire de la commande publique, que d'être pas être capable de produire de sens au-delà de cette question de qui sont liées à des contrats de recherche et autres. Et ça, c'est un réel problème. Mais je caricature un peu, à l'excès, l'état du paysage sociologique français. Mais moi, je suis quand même assez frappé que sur des champs aussi importants, par exemple, que la mobilité sociale, on ait si peu de travaux que... sur la sociologie de la consommation, sur la sociologie des revenus, et comme tu le dis, du coup, on va faire appel à des économistes sur ce sujet, c'est tout à fait regrettable. Alors, il y a des pistes du côté du secteur privé, par exemple, il y a des gens qui connaissent très bien la consommation, c'est des gens qui font du marketing, donc peut-être qu'il faut aller voir auprès d'eux. Il y a par exemple des gens du côté de la Sofres qui font des enquêtes extrêmement intéressantes, du côté de chez Auchan, au Carrefour, parce qu'ils connaissent très bien ce que les gens consomment. Voilà. C'est peut-être une des pistes. Il y a des bureaux d'études privés, comme sur lequel je travaille, qui s'appelle le Compas. Mais c'est peut-être pas anodin sur le fait que ce soit le Compas qui ait décidé la création, fin d'année dernière, de ce qu'on a fait, le centre d'observation de la société. Je vous invite à aller voir. Observationsociété.fr, c'est-à-dire que ça est un travail qui a été abandonné par une grande partie de la sociologie.
Donner le micro. Vous dites qu'on pointe des catégories, donc si on pointe des catégories, on risque de les effacer. En ce moment, on lit dans les journaux, enfin, il y a des étudiants dans la salle, donc je parle peut-être en leur nom, mais il y a pas mal d'articles alarmistes sur la pauvreté dans le milieu étudiant. Donc je me demandais ce que vous en pensez, et éventuellement aussi, les articles pointent particulièrement la difficulté d'accès aux soins. Et en effet, les étudiants ne peuvent pas s'inscrire à la Sécu parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Donc là, je sais, il y avait un article dans Le Monde la semaine dernière où il y a 15 jours, un grand article très, très alarmiste. Est-ce que nos amis sociologues et autres ont des réponses à donner sur cette nouvelle catégorie ou les études, et comment pensez-vous que ça va évoluer? Est-ce que cette catégorie, en la pointant, on va l'effacer, ou alors on va essayer de résoudre ces problèmes qui sont des problèmes réels de vie quotidienne des étudiants?
Nicolas, c'est pour toi. Si je réponds, je me fais triper par les étudiants. Donc,
j'avais compris que j'étais la seule représentation de la corporation des amis et sociologues. non, cette question, elle est évidemment la question de la pauvreté des jeunes. D'ailleurs, les étudiants sont souvent, voilà, partie d'entre eux, jeunes, pas tous, mais... j'agrège un petit peu, mais c'est évidemment dans un système de protection sociale. Encore une fois, j'ai évoqué la dualisation du système de protection sociale. La dualisation, ça veut dire que vous avez un système qui repose sur le travail, et avec des ayants droit, des gens qui sont protégés par le travail. En France, je dis souvent justement à mes étudiants, jusqu'à 25 ans, vous n'êtes pas un individu du point de vue de la citoyenneté sociale. Vous êtes tributaire de la redistribution par la solidarité familiale, dont on sait, parce que quand même, les travaux de Jean-Hugues Deschaux et Nicolas Herpin sur les inégalités entre les familles ont montré que c'était des modes de solidarité qui étaient parmi les plus inégaux. Mais la société continue à penser que c'est à travers les parents que les jeunes doivent être protégés. Là, pour le coup, compte non tenu des inégalités très très fortes entre les jeunes, qui font que le diplôme, qui est l'accès quand même à une intégration sociale de longue durée, est lui-même réparti de manière extrêmement extrêmement inégale. Mais ça a en France, si vous voulez, c'est pour ça que je pense pas très honnêtement qu'on aille vers une forme de prise en charge de la jeunesse qui soulage réellement ces questions-là, parce qu'il y a un tabou qui est le maintien de la construction familialiste de notre protection sociale. Et là, si on regarde ce que font les Scandinaves, par exemple, c'est extrêmement différent. À 18 ans, on a le droit de vote et on a le droit à un minimum social, tandis que chez nous, c'est par l'intermédiaire du quotient familial qu'on va trouver pour ceux dont les parents payent des impôts, évidemment, sur le revenu, ce qui n'est jamais qu'une famille sur deux, si on regarde les revenus du travail. Eh bien, vous avez cette absence de prise en compte de ces situations. Et c'est pour ça que je parlais en termes de besoins. Parce que si on regardait en termes de besoins, on verrait que le taux de pauvreté des jeunes est 8 points supérieur à la moyenne. C'est les chiffres de l'Observatoire des inégalités. Donc, je sais qu'ils sont bons.
Attention, mais, je t'avance. Donc,
on a une connaissance du différentiel, mais on a une construction de la société qui fait que... On raisonne autrement. Et le pire, et à mon avis, c'est sans doute là-dessus qu'on se dirigera, c'est le pire, c'est qu'on va orienter des formes d'action publique par défaut. C'est-à-dire, de l'assistance, on finira par élargir le RSA à 18 ans. Mais parce qu'on n'aura pas pensé un système de protection sociale plus cohérent qui organise une prise en charge des individus. Je réponds à Patrick là, discrètement, mais effectivement, l'individualisation, c'est un fait social. Les soubassements sociologiques que j'ai évoqués, tertiarisation, la démocratisation scolaire, universitaire, etc., font que, y compris au sein des classes populaires, on se représente soi-même dans un contexte extrêmement individualisé. Et donc, là, il y a peut-être une adaptation de l'action publique pour remettre de la protection collective ou structurée à travers de l'individualisation. Il me semble que c'est une faute contre l'esprit que d'opposer solidarité et individualisation. Travaux historiques, ceux de Marcel Gauchet notamment, ont montré que l'individu est le produit de la protection sociale. C'est parce qu'on a de la protection sociale qu'on peut dire fermer la porte à ses voisins. Donc il n'y a pas d'opposition. Je pense qu'au contraire, c'est en retissant les deux qu'on pourra avoir des formes de protection à la fois plus souples pour les individus et plus acceptable pour ceux qui les payent.
Plus historique encore, même les travaux du solidarisme. Malheureusement, on a déjà pris 15 minutes, donc Christine, éventuellement, puis on termine là.
Non, je vais aller très vite, on peut poursuivre le débat tout à l'heure à table. Simplement, une petite contribution rapide à l'échange qui a eu lieu entre Emmanuel et Anne-Laure. Enfin, j'ai peut-être une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut sur l'emploi, l'utilisation de ce vocabulaire marxiste qui apparaît dans toute sa péremption aujourd'hui pour penser ces inégalités sociales et qui me semble lié, parce que j'ai constaté la même chose dans des littératures d'Europe de l'Est, au fait qu'il y a une période de totalitarisme qui a au fond figé le discours public, et que le fait qu'il ressurgisse sous une forme relativement fossilisée peut être un des éléments de réponse au débat de tout à l'heure. Voilà. Et alors la question que je voulais poser à Nicolas Duvaux concernait plus tôt, mais vous y avez presque répondu par la négative, si j'ose dire, les politiques de la ville, en termes à la fois peut-être de correction des inégalités, mais par rapport à la tripartition qui avait été évoquée tout à l'heure, au fond, en quel sens y aurait-il un mouvement qui se dessinerait du côté de la correction des inégalités, d'une part, et d'autre part, du fait de cette tripartition, peut-être aussi des éléments de résistance à ce mouvement, puisqu'on sait très bien, pour dire les choses un peu crûment, que c'est en gros le pavillonnaire qui a peur d'être rattrapé par le grand ensemble qui vote Le Pen. Voilà.
Merci. Rebondir, non ?
Rebondir. Oui, mais l'action... Enfin, moi, je replacerais ça dans un cadre beaucoup plus large. C'est-à-dire, la politique de la ville est une action ciblée, comme les minima sociaux. Ce sont des formes d'action publique qui sont d'ailleurs nées à la même période et qui ont les mêmes effets, les effets de mise à distance par ceux qui sont les plus, c'est-à-dire qui craignent le plus d'être contaminés par le registre moral, le registre même d'identification qui est lié à ces formes d'action publique. Donc je ne peux que souscrire à ce que vous venez de dire à la fin. On voit bien que l'opposition que j'ai évoquée tout à l'heure, elle recoupe une volonté de séparation de tous ceux qui le peuvent vis-à-vis des grands ensembles de la politique de la ville.
Merci beaucoup encore. Donc, des axes déjà de réflexion, des éléments de réponse, de problématisation, qu'on va essayer de réinvestir aussi sur un mode un peu particulier, avec maintenant la question des représentations théâtrales. Grâce à la présence de Didier Besas, qui est acteur et metteur en scène, directeur du théâtre de la Colline à Aubervilliers, qui sera en conversation avec Monique Leroux, maître de conférence en littérature comparée à l'Université de Poitiers. On va quand même prendre 5 minutes peut-être de pause, histoire aussi de changer l'air, et puis on se retrouve tout de suite. Merci encore.